السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عفوا، نصوم إن شاء الله تعالى مركودي 21 محرم 1428، c'est-à-dire بإذن الله عز وجل le mercredi 30، pardon je me suis trompé, nous sommes mercredi 12 محرم 1428، c'est-à-dire mercredi 31 janvier 2007 بإذن الله عز وجل. Nous sommes toujours avec le fiqh. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va commencer la salat. On va commencer la salat. Je donne un conseil à ceux qui peuvent d'acheter le livre qui s'appelle le Sifat Salat al-Nabi. Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, min al-takbir ila al-taslim, ka'annaka tara'a. Le Cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah. Naam. Et le livre existe en français, masha'Allah. Naam. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, décrite du commencement à la fin, comme si vous la voyez, traduit par Abu Sulayman Albani, édition d'Al Asar. Ce livre existe, alhamdulillah, et aucun salafi ne peut s'en passer. Aucun salafi n'a le droit de ne pas l'avoir à la maison, parce qu'il a toujours des problèmes avec des choses dans la salat, pour se corriger, pour montrer aux gens, etc. C'est ça qu'il doit, inshallah ta'ala, l'acheter. Donc vous allez voir qu'il y a des choses dans la salat très importantes que beaucoup de gens ne connaissent pas ou que beaucoup de gens font, mais d'une façon qui n'est pas vraie. Ça qu'on va aller, Inch'Allah ta'ala, doucement. L'essentiel, c'est d'apprendre le juste, d'apprendre le vrai. Et ce n'est pas, Ibn Azza wa Jal, d'apprendre beaucoup, tout à la fois. Non, l'essentiel, c'est, Inch'Allah ta'ala, d'apprendre, yani, à chaque fois, quelque chose, et à condition, Ibn Azza wa Jal, que cette chose soit vraie, et بإذن تعالى et qu'elle est indébile. طيب. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans le début de son livre, a beaucoup parlé de l'imitation aveugle, hein, de ceux qui imitent aveuglément, par exemple, un imam, hein, ou bien il imite par exemple un imam d'une des grandes écoles, comme quoi ils ont beaucoup de c'est-à-dire arrogant et argumentant leur faux chemin par des délits comme ça, des choubouettes qui sont des choubouettes froides qui n'ont pas de délits. Al-Bani Larmo veut montrer dans plusieurs pages que personne n'a le droit de yani, donner le dos au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire moi je suis une autre personne, cette personne connaît mieux que moi, je la suis et je ne suis pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ils ont beaucoup de choubouat, comme j'ai dit. Cheikh Al-Albani Rahmou va montrer que tous les imams, surtout ceux des quatre grandes écoles, Abu Hanifa rahimahullah, Shafi Malik rahimahullah, Shafi'i rahimahullah, Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, tous étaient unanimes pour dire que il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas nous suivre, nous, bi-idnillahi azzawajal. On va commencer, inshallah ta'ala, par Abu Hanifa. Cheikh Al-Albani a dit, Allah yirhamo, il a dit, فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله. نعم. Et voilà ce qu'a dit Abu حنيفة رحمه الله. Il a dit beaucoup de choses, mais entre autres, voilà ce qu'il a dit. Il a dit إذا صح الحديث فهو مذهبي. Il a dit si le hadith est authentique, il fait partie de mon madhhab. نعم. إذا صح الحديث فهو مذهبي. رواه ابن عبيدين في الحاشية. وذكره في رسالته رسم المفتي وموجود يعني في 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 مضان كثيرة. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si le hadith est authentique, il fait partie de mon madhhab. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si Abu Hanifa dit quelque chose, ensuite on trouve un hadith qui va à l'encontre de ce qu'a dit Abu Hanifa, Abu Hanifa Allah yarhamo. Ça veut dire que toi, tu dois prendre du hadith et tu dis voilà ce qu'a dit le hadith, c'est le madhhab de Abu Hanifa. Abu Hanifa, c'est pas ce qu'il a dit lui, non, c'est ce qu'a dit le hadith. Car lui, avant de mourir, il nous a fait la wasiya, il nous a dit moi, mon madhhab, c'est où il y a le hadith, c'est pas ce que je dis moi. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnah. Il n'est permis à personne d'appliquer notre parole tant qu'il ne sait pas d'où nous l'avons puisé. Naam. D'où nous l'avons puisé. Ce hadith, d'accord, Ibn Abdel Barr, cette parole, d'accord, Ibn Abdel Barr, fait l'intiqa, fait fada'il, et thalassat il a'imma al-fuqaha, ou Ibn al-Qayyim, fait alam al-muqi'in, ou Ibn Abidin, fait hachiyatihi, et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Naam, il a dit aussi, au firiwaya, dans une autre version, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Subhanallah al-Azim. Il a dit, dans une autre version, il est interdit. À toute personne ne connaissant pas mon délil de juger selon ma parole. Naam. Quand tu dis Abu Hanifa a dit tu ne sais pas pourquoi il a dit quel est son délil, il a dit haram alik. Abu Hanifa te dit haram alik que tu dises j'ai dit une chose et tu ne sais pas d'où je l'ai prise. Naam. Wa fi okhra il a dit fa innana basharun naqulu al-qawla al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Il a dit certes nous ne sommes que des humains, il se peut que nous ayons une position aujourd'hui sur laquelle nous reviendrons demain. Naam. Abu Hanifa Allah a dit, il est possible que je dise aujourd'hui une chose et que demain je dise son contraire. Naam, nous ne sommes que des êtres humains. Fi okhra, dans une autre version, il a dit Wayhak Ya'qub, c'est-à-dire Abu Yusuf, un de ses plus proches adeptes, qui lui a dit Wayhak, la taktub aliya kulla ma tasma' minni. Wayhak, malheur à toi, O Ya'qub. N'écris pas tout ce que tu entends de moi. Pourquoi? فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا. Naam. Il se peut que j'ai un avis aujourd'hui, je l'abandonne demain. Naam. وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدًا. Et c'est possible que j'ai une opinion demain et je la délaisse, après demain. Donc il a dit وَيْحَكَ. Et il a dit aussi وَإِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْرُكُوا قَوْلِي. نعم أبو حنيفة الله يرحمه قال si je dis une parole qui contredit le livre d'Allah Azza wa Jal et le hadith du messager صلى الله عليه وسلم délaissez alors ma parole. Où est-ce qu'il a dit ça? الفلاني في الإيقاظ. نعم الفلاني في الإيقاظ ونسبه للإمام محمد أيضا. نعم. Donc vous avez entendu ce qu'a dit l'imam Abu Hanifa rahimahullah, si je dis une parole qui contredit le livre d'Allah et le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, délaissez alors ma parole. Naam. Alors celui qui dit moi je suis Hanafi, on lui dit si tu es vraiment Hanafi, tu n'as jamais le droit de dire yani, quelque chose qu'a dit Abu Hanifa Allah qui va à l'encontre du hadith. Il était haram, il était pas permis non seulement devant Allah mais aussi devant Abu Hanifa qui a laissé يعني دواسايا il a dit attention que vous trouviez un hadith qui soit sahih et qui va à l'encontre de ce que j'ai dit et que vous avanciez ma parole sur le hadith. Attention, je me désengage devant Allah. C'est haram pour celui qui fait ça ou l'a dit ça de moi. Maintenant, si vous voyez les gens du Pakistan, de l'Inde, qui suivent Abu Hanifa d'une façon aveugle, tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, Abu Hanifa n'a pas dit cela. Taqillah, taqillah. Le prophète, alayhi salam, a dit, ah, il veut qu'Abu Hanifa, il ne connaît pas. Abu Hanifa, ce n'est pas un alam. Non, ceux-là ne sont pas, inshallah ta'ala, les adeptes de Abu Hanifa. Non, ce ne sont pas les adeptes de Abu Hanifa. Ensuite, le deuxième, par exemple, l'imam Malik. L'imam Malik, alayhi rahmatullah. Qu'a dit l'imam Malik, alayhi rahmatullah? Il a dit beaucoup de choses. Entre autres, qu'est-ce qu'il a dit? إنما أنا بشر أخطي وأصيب إنما أنا بشر أخطي وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ذكره ابن عبد البر في الجامع وابن حزم في أصول الأحكام نعم سبحان الله العظيم قال الإمام مالك رحمه الله il a dit certes je ne suis qu'un humain qui se trompe comme il pourrait avoir raison. Vérifiez donc mon opinion. Vérifiez mon opinion. Tout ce qui est en accord avec le livre et la sunna, prenez-le. Et tout ce qui n'est pas en accord avec le livre et la sunna, laissez-le. Naam, laissez-le. S'il y a quelque chose qui n'est pas en accord de ce que je viens de dire, je ne suis pas infaillible. Si je dis une chose, elle n'est pas à l'encontre elle va à l'encontre du Coran et de la sunna, ne prenez pas ma parole, ne prenez pas mon opinion. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a le droit de légiférer. C'est pas moi. Ne prenez pas mon opinion. Naam. Il a dit aussi, laysa ahadun ba'd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est très connu de lui. Dhakara Ibn Abd al-Barr fi al-Jami'. Naam, c'est très très connu de lui cette phrase. Naam. Il a dit laysa li ahad. Laysa li ahad, yani on peut dire ça en français, il n'existe personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que sa parole ne soit acceptée ou rejetée, excepté celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, masha'Allah, ce qu'a dit l'imam Malik, ça devrait être écrit en or et ça devrait être montré à qui? Montré à ceux qui l'imitent aveuglément. Celui qui l'imite, qui l'imite aveuglément, on lui dit, si au moins tu savais ce qu'avait dit ce qu'a dit l'imam Malik, Allah la yahmou. Si au moins tu savais ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit en autre? Il n'existe personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que sa parole ne soit acceptée ou rejetée, sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est infaillible. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu infaillible dans la sharia. Naam. Dans la législation. Il est infaillible. Sauf lui, quand il dit une chose, il ne se trompe jamais, il huwa illa wahyun yuha. Toutes les autres personnes peuvent se tromper. Toutes les autres personnes. Tous les plus grands ulama du monde peuvent se tromper. Ils peuvent dire un hadith, ensuite après un mois, ils disent pardon, le hadith est daif. Ou bien pardon, j'ai cru avoir compris ceci. Ou bien pardon, le hadith est abrogé. Ou bien pardon, le hadith était général, mais il a été particularisé par un autre hadith, mukhassas. Et comme ça. Naam, tous les ulama se trompent bi'idna al-azza wa jal et ils ont une particularité sur nous, laquelle, c'est que quand ils se trompent, ils ont un ajr. Ils ont des récompenses pour s'être trompés. Mais c'est pas pour Allah Ta'ala leur donne des récompenses à cause de la faute, mais à cause des efforts. Ils ont fait des efforts et ils se sont trompés. Allah Azza wa Jal ne laisse pas quelqu'un comme ça. Il y a un alim qui fait des efforts. Il lui donne quoi? Il lui donne, yani, des ajr et des récompenses pour s'être quoi? Pour s'être fatigué, naam, à cause de, yani, les efforts qu'il a fait bi-idhnillah azza wa jal. Ensuite, autre chose, Ibn Wahb, l'un des adeptes les plus proches de l'imam Malik rahimahullah. L'un des adeptes les plus proches de l'imam Malik rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sami'tu malikan, entendu l'imam Malik alayhi rahmatullah. Naam. Su'ila an takhlili asabi'i rijlayni fi al-wudu. J'ai entendu, yani l'imam Malik rahimahullah, on lui a posé une question sur le lavage, yani des pieds, en ce qui concerne entre les doigts, pendant les ablutions. Quand on fait les ablutions, on arrive aux doigts des pieds, les orteils. On lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que, c'est-à-dire, on doit laver entre les doigts, entre les orteils. Qu'a répondu l'imam Malik rahimahullah? Il a dit, laysa dhalika 'ala an-nas. Laysa dhalika 'ala an-nas. Les gens n'ont pas à le faire. Laysa dhalika al-nas, les gens n'ont pas à ce qu'ils fassent yani entre yani le lavage entre les orteils. Naam, il a dit laysa dhalika al-nas. Qala fataraktuhu hatta khaffa an-nas. Kadi Ibn Wahb rahimahullah, il a dit j'ai attendu l'imam Malik jusqu'à ce que les gens se soient éloignés de lui. Naam, quand il est resté seul, faqultu lahu, je lui ai dit عندنا في ذلك سنة. Je lui ai dit, j'ai ou bien nous avons une sunna sur cela. Nous avons une sunna sur le fait de laver les doigts derrière les orteils. Naam. فقال وما هي. Il me répondit, et quelle est-elle? C'est quoi la sunna? قلت, j'ai dit, حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال il leur a dit يعني XXX m'ont rapporté, ils ont dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك في خنصره ما بين أصابع رجليه. Ils lui ont dit, Ibn Wahb a dit, ils m'ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, que quelqu'un a dit j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم frictionner entre ses doigts des pieds avec son auriculaire, le petit doigt, le dernier doigt le plus petit. Quelqu'un a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam frictionner, aller faire rentrer son petit doigt entre les orteils du pied quand il faisait le taymum. Naam, Fadil Imam al-Fa'ali rahmatullah, il a dit inna hadha al-hadith hasan, il a dit ce hadith est hasan, c'est bon, wa ma sami'tu bihi qat illa sa'a, et tu n'en es jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu ce hadith. Naam. Je n'ai jamais entendu ce hadith auparavant, si ce n'est aujourd'hui. Ensuite, Kadi ibn Wahb, il a dit, ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. ما شاء الله. Il a dit, plus tard, j'entendis l'imam Malik, rahmatullah, quand on lui posait cette question la même, yani des doigts des pieds, il répondait en ordonnant de se laver entre les doigts des pieds, c'est-à-dire dans les ablutions, avec l'auriculaire. Masha'Allah la quwwata. Vous avez vu l'imam Malik, quand il a dit qu'on ne doit pas faire cela, il a dit d'après ce qu'il sait lui. On dit jamais entendu qu'on faisait cela. Mais quand Ibn Wahb lui a montré que c'est une sunna, il a dit khalas, masha'Allah, min al-yom, je prends la sunna. Et à chaque fois qu'on lui posait la question, il disait Naam, vous faites avec votre petit doigt, yani quand vous lavez les pieds, vous frictionnez bi'idhni ta'ala entre les orteils avec le petit doigt. Avec le petit doigt, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Quant à l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit, la yahmo? Naam. Il a dit, طيب, wa ma min ahadin illa wa tadhhabu alayhi sunnatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'jubu anhu. Il a dit il n'y a pas une personne sans qu'une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam ne lui parvienne ou ne lui échappe. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas ignorer une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui peut lui échapper. Il a dit فمهما قلت من قول. Alors, quelle que soit la parole que j'émets, quelle que soit l'opinion que je donne, quelle que soit ce que je dis, ou bien quelle que soit la règle que j'énonce, فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت, qu'il existe quelque chose contredisant mon opinion provenant du prophète صلى الله عليه وسلم, فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Naam, فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Alors la parole la plus juste, c'est celle qu'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. وَهُوَ قَوْلِ. Et c'est aussi ma parole. Naam, et c'est aussi ma parole. Voilà ce qu'a dit الشافعي عليه رحمة الله. Il a dit aussi, أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. Zakarahu Ibn al-Qayyim, Naam, al-Fulani aydan. Donc, il a dit aussi, les musulmans sont unanimes pour dire que toute personne qui lui parvient une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de la délaisser pour la parole d'une autre personne. Naam. Il n'est pas permis de la délaisser pour une parole d'une autre personne. Il a dit aussi, وَإِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خِلَافُهُ فَعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ. Naam. Si vous trouvez dans mon livre ce qui contredit la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, naam, il a dit, prenez alors la sunna du messager صلى الله عليه وسلم et abandonnez ma parole. Et abandonnez ma parole. Naam. Ça y est. Il a dit aussi, bon, ça je l'ai dit, il a dit aussi, إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Naam. Parce qu'auparavant il a dit, si vous voyez que je dis une parole et qu'il y a un hadith authentique venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam la contredisant, qui contredit ma parole, sachez que j'ai perdu la raison. Naam. C'est-à-dire, je suis fou, moi, si je laisse un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je vais dire quelque chose de ma tête. Ça veut dire, il a dit que j'ai perdu la raison. Naam. Il a dit aussi, tout hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi ma parole, même si vous ne l'avez pas entendu de moi. Rapporté par Ibn Abi Hatim, page 93-94. Tout hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si vous ne l'avez pas entendu de moi, naam, ça veut dire c'est aussi ma parole. C'est aussi ma parole. Quant à l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, il a dit aussi beaucoup de choses. Entre autres, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, La tuqallidni. La tuqallidni. Il parlait à un de ses adeptes, il lui dit, La tuqallidni. Ne m'imite pas. Ne m'imite pas. La tuqallidni. Wa la tuqallid malikan. Ni malik. Ni l'imam malik. Naam, ne l'imite pas. Ne l'imite pas. Wa la malik. Wa la shafi'i. Ni shafi'i. Wa la l'auza'i. Ni l'auza'i. Wa la thawri. Ni thawri. Wa khudh min haythu akhadhu. Mais, puise. Puise d'où ils ont puisé. Naam. Va tirer d'où ils ont tiré. Naam, c'est pas la bonne de suivre X ou Y. Essaye de prendre d'où ils ont pris eux. D'où ils ont pris eux. Dans une autre version, il a dit, La tuqallid dinaka ahadan min ha'ula'i. Dans une autre version, n'imite personne dans la religion parmi ces hommes. Naam, parmi ces hommes. Il a dit, La tuqallid dinaka ahadan min ha'ula'i. Ma ja'a an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi fa khudh bihi. Ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, prends-le. Thumma tabi'in. Ensuite, prends les tabi'in. Naam. Ar-rajulu fihi mukhayyar. Il a dit, thumma tabi'in ba'd ar-rajulu fihi mukhayyar. Il a dit, ensuite, prends les tabi'in parmi lesquels tu as le choix. Naam. Il a dit aussi, al-ittiba' an yattabi'a ar-rajulu ma ja'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa 'an ashabihi. Le fait de suivre consiste à suivre ce qui nous parvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Thumma huwa min ba'd at-tabi'in mukhayyar. Ensuite, après cela, on a le choix parmi les tabi'in. Naam. Il a dit aussi, man radda hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa huwa 'ala shafa halaka. Fa huwa 'ala shafa halaka. Celui qui rejette un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au bord de la perdition. Hein, vous trouvez chez Ibn Jawzi, page 182. Quiconque rend un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, qu'est-ce qu'il est? Celui-là, il est au bord de la perdition. Il est au bord de la perdition. Et il reste beaucoup à dire, les grands imams. Je vous ai donné seulement un aperçu sur ce qu'ils ont dit. La conclusion, c'est quoi? C'est que il n'est permis à personne de suivre quelqu'un yani, en tout ce qu'il dit sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé l'imam Malik, Allah yarhamou, ni Shafi'i ni Ahmed ibn Muhammad, il aura pas donné le message. Il a fait d'eux des grands ulama ce sont des gens qui nous montrent. C'est comme si on peut dire de grandes lampes, lampes qui illuminent, qui te montrent, c'est tout. Ça ne veut pas dire que je dois le suivre aveuglément comme font beaucoup de gens. Mais je demande à ces grands ulama, je leur dis, donnez-moi ce que vous avez du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de ce que vous avez vous. Non, donnez-moi ce que vous savez du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'ils me disent, c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le prends. Non. Et toute chose qu'ils disent, eux, qui se contredit avec ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne la prends pas. Je ne la prends pas, car j'adore Allah subhanahu wa ta'ala en suivant son prophète, pas une autre personne. Les autres personnes, je les aime. Pourquoi? Parce que ce sont des ulama. Ce sont des ulama, mashallah. Et le grand alim, même quand il se trompe, il a un ajr. C'est la différence entre lui et moi. Le alim, quand il se trompe, il a des récompenses. Pourquoi? À cause de s'être fatigué. Il s'est fatigué, il a fait des efforts. Allah azza wa jal karim, il lui donne en compensation à cause des efforts qu'il a fait, même s'il s'est trompé. Donc il a une récompense s'il se trompe. Et s'il dit juste, il a deux récompenses. Une pour avoir fait des efforts, la deuxième pour avoir dit juste. C'est pour ça que nous on a été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre qui? Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la différence, enfin l'une des différences entre le salafi et le madhhabi. Le madhhabi, il te dit, moi ça m'intéresse pas, je ne suis pas un alim, je ne peux pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que je fais? Je deviens muqallid. Muqallid, on dit muqallid, imitateur. En arabe, c'est quoi muqallid? Muqallid, ça veut dire il a accepté qu'on lui mette l'qilada. L'qilada, c'est la chaîne. J'ai accepté que vous me mettiez la chaîne et que vous me tiriez comme ça vers vous, vous me guidez comme une vache. Vous me prenez à droite, à gauche, hein, comme la vache quand tu la tires avec la chaîne, c'est toi qui commandes. C'est-à-dire que je ferme les yeux, maintenant je suis imitateur, je ferme les yeux, tout ce qu'a dit ce savant, c'est la sharia, c'est l'islam. Et tout ce qu'il n'a pas dit, c'est pas l'islam. Allahul Musta'an. Au point où, ils sont arrivés dans le ta'assob et le chauvinisme, au point où, si quelqu'un, par exemple, est de Malik, il suit Imam Malik, il imite Imam Malik, par exemple, je lui donne pas ma fille, naam, qui est du madhhab, par exemple, Shafi'i. Et le Shafi'i ne donne pas à Hanafi. Et comme ça, ils ont commencé à faire la guerre entre eux. Au point où, des fois, et il y a ça jusqu'à présent, dans certaines mosquées, il y a ça jusqu'à nos jours, surtout en Syrie, où quand tu rentres à la mosquée, il y a quatre adhan. Naam, le premier adhan, il fait le adhan, ensuite ceux qui suivent l'imam Malik, ils font la salat. Ensuite, deuxième adhan, se lèvent ceux qui suivent l'imam Shafi'i. Troisième adhan et salat pour ceux qui sont Hanbali. Ensuite, pour ceux qui sont Hanafi. Subhanallah al-Azim, comment ils ont divergé au point où chacun a sa salat, chacun sa mu'adhan, chacun sa iqama. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Et certains, les pauvres musta'an, ils disent ikhtilafu ummati rahma. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que mashallah, c'est une rahma que on diverge comme ça. On dit c'est une rahma, yani Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on se diverge, c'est une rahma. Ce hadith, bien sûr, n'est pas vrai. Ce hadith n'est pas vrai. Car Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ. Allah Azul a dit, ils seront toujours divergés, sauf si yani, je les rentre dans ma miséricorde. C'est-à-dire, celui qui n'est pas dans la miséricorde d'Allah, c'est celui qui diverge. Mais ceux que Allah Azzawajal a mis dans sa miséricorde, ils ne divergent pas. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit Al-Furqatu Azab. Al-Furqatu, il a dit Al-Jama'atu Rahma. Al-Jama'a, l'union, le groupe, Rahma, c'est une Rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Furqatu, la dispersion, et c'est quoi? C'est Azab, c'est un châtiment. Na'am, c'est un châtiment. Bon. Comment m'expliquer que il y a une chose, la même chose, qui est par exemple haram, qui est haram dans le madhhab Al-Hanafi, et qui est halal et mustahab conseillé dans le madhab maliki, et qui est par exemple makruha dans le madhab shafi'i, et qui est peut-être mustahabba ou la sunna dans un autre madhab. Subhanallah al-Azim. Comment? La même chose, elle est halal haram, elle est conseillée déconseillée. Ça se peut pas. Ou لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah Ta'ala a dit, si ce n'était pas d'Allah, dit à Muhammad, si ce n'était pas d'Allah, yani le Coran, ils en auraient trouvé beaucoup de contradictions. Comment la chose? Est-ce que Allah Ta'ala fait descendre une chose, il dit, en même temps, elle est halal, elle est haram? Ou bien elle est halal, ou bien elle est haram? Ou bien elle est conseillée, ou bien elle n'est pas déconseillée? Alors que vous trouvez, ce madhab dit d'une même chose, elle est conseillée. L'autre, il dit, n'est pas déconseillée. L'autre, il dit, elle est obligatoire, l'autre, il dit, elle est haram. Bien sûr, d'après leur science, d'après les délits qu'ils ont eus, etc., certains, un madhab dit, cette chose, par exemple, ce mariage n'est pas valable. L'autre madhab dit, il est valable. Un madhab dit, une école dit, cette femme, d'après le Kahari, elle est divorcée. L'autre madhab dit, non, elle n'est pas divorcée, elle est sa femme. Et comme ça, la hawla wa la quwata, illa billah al-ali al-adim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل a dit, non par ton Seigneur, Allah Ta'ala a juré, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Naam. Quand je te dis, moi, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu m'as dit, l'imam Malik a dit, tu ne t'es pas encore soumis à la sentence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, tu ne t'es pas encore soumis. Et si l'imam Malik était vivant, il aurait ordonné qu'on te frappe, qu'on te fouette le dos. Pourquoi? Parce que il va te dire, maintenant, tu prends ma parole et tu prends pas celle du prophète. Alors on va te fouetter, toi. Je me désengage de toi. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi j'ai dit il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit si je me suis trompé, il ne faut pas me suivre moi. Mais ceux-là disent non. On doit suivre les écoles, c'est tout. On ne doit pas sortir d'une des écoles pour suivre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont une grande choubha. Une grande choubha. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, écoute, il y a seulement alim, homme de science, ou bien jahil, ignorant. Alors toi, tu es alim ou là tu es ignorant? Si tu es alim, alors montre-nous ton ilm et montre-nous ce que tu as écrit, etc. Masha'Allah, tu es toi le nouveau imam Malik. Et si tu es ignorant, alors il ne te reste plus qu'à imiter. Car il y a le alim et l'imitateur. Il n'y a pas le milieu. Alors les gens qui n'ont pas de délit, ils vont dire c'est vrai. Ou bien, moi je suis alim, je ne suis pas alim. Alors qui je suis? Je suis un ignorant, donc je vais imiter, je vais prendre un madhab, Shafi'i, Hanbali, je vais le suivre à fond, là je ferme les yeux. Et ça c'est une choubha. La vraie réponse est de dire quoi? La vraie réponse est de dire, pardon, tu as divisé en deux sortes, c'est ton avis. Moi je divise en trois sortes. Fadal, c'est quoi les trois sortes? Naam, voilà les trois sortes. Il y a le savant, et il y a l'ignorant en bas, et au milieu, il y a Al-Muttabi'a, il y a celui qui suit le délit. Il n'est ni alim, ni ignorant. Il est au milieu. Il suit le délit. Ça s'appelle l'ittiba'a. Je suis. Al-Tabi'u. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Al-Tabi'u ahsana ma unzila ilikum a rabbikum. Il a dit, Al-Ladina yittabi'un al-Rasul al-Nabi al-Ummi. Naam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta, naam. Qul in kuntum tuhibbun allaha, fattabi'uni. Suivez-moi. Donc c'est plein de versets où il dit suivez le prophète, suivez-moi, suivez ce que je lui ai descendu, et comme ça. Donc on lui dit attention, n'essaie pas de me tromper ni de faire tromper les gens. Certes je ne suis pas alim, mais je ne suis pas un imitateur auquel on va mettre une chaîne et on lui dit ferme les yeux et imite. Mais je suis au milieu, je suis quelqu'un qui demande le délit. Je suis le verbe suivre. J'aime suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donne-moi le délil qu'il a dit cette chose, c'est tout. Et je ne suis pas chauvin, je dis seulement cette personne a raison. Non. La raison peut être chez celui-là, chez l'autre, c'est d'après les délits. C'est d'après les délits. Donc c'est à peu près pour que vous sachiez, c'est pour ça que Cheikh Al-Albani Rahmou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a une autre choubha, je voudrais la dire, une autre choubha, c'est que certains disent, donc toi tu ne veux pas suivre le madhab, tu ne veux pas suivre l'une des quatre écoles, donc toi tu es plus avant. Donc toi tu n'aimes pas l'imam Malik, donc toi tu n'es pas ceci. Tout ça c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que toi l'imitateur aveugle, toi qui dis on doit suivre une école. Taïb, toi qu'est-ce que tu dis? Tu es qui toi? Tu es malikite? Tu dis qu'on doit suivre l'imam Malik? Il te dit oui, on doit suivre l'imam Malik. On lui dit, toi tu es le premier à ne pas lui obéir. Car lui, il a dit, ne me suivez pas et suivez le prophète. Alors tu vois, tu es le premier à ne pas le suivre. Et la même chose, on dit à l'autre façon. Toi, tu es qui? Tu es Hanbali. Hanbali, mashallah, l'imam Ahmed, mashallah. Et toi, le premier, tu ne suis pas l'imam Ahmed. L'imam Ahmed a dit, ne me suivez pas. Ne suis pas. Prends d'où j'ai pris. Ne me suis pas. Je ne suis pas un prophète. Toi, qui tu es? Tu es Shafi'i. C'est pas vrai, tu n'es pas Shafi'i. Si tu étais Shafi'i, tu aurais pris de ces nasa'ih, les nasa'ih de l'imam Shafi'i. Quand il a dit, puiser d'où on a puis. Na'am, d'où on a puisé. Quand il a dit, si vous voyez un hadith qui contredit ce que j'ai dit, ça veut dire, j'ai perdu la raison. Ne prenez pas avec ce que j'ai dit. Et on dit à la quatrième personne, toi tu es Hanafi, tu dis qu'on doit suivre Abu Hanifa. Na'am, on doit suivre Abu Hanifa. Allah yahdik. Abu Hanifa lui-même a dit, il est haram que vous me suiviez sans que vous connaissiez mon dalil. Alors toi tu es le premier à transgresser et à désobéir à ton cheikh, au grand cheikh Abu Hanifa. Et toi le premier élève qui est contre lui. Et tu veux m'obliger à le suivre. C'est pour ça que nous on dit aux gens qui croient que lorsqu'on dit on suit pas les madhab, on suit pas, je suis pas aveuglément. Ils croient que, donc je suis contre eux, je suis contre les grandes écoles. Masha'Allah, moi je suis mieux que toi. Moi j'aime les grandes écoles, j'aime les grands ulama. Et moi je suis leur nasa'ih. Ils m'ont donné des nasiha. Ils m'ont dit il ne faut pas me suivre. Il faut suivre le prophète alayhi sallam. Et moi, alhamdoulilah, j'ai pris de leurs conseils. Maintenant, toi qui les a pas suivis, toi qui es contre eux, moi alhamdoulilah, j'ai pris de leurs conseils. Donc c'est moi le vrai Hanafi. C'est moi le Maliki, c'est moi le Shafi'i, c'est moi le Hanbali, c'est moi. Parce que moi, j'y suis les conseils de ces quatre grandes personnes et quatre grands savants. Et deuxièmement, quand je ne les suis pas, c'est pas parce que je les aime pas. Non, c'est parce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que je les aime. Et c'est parce que eux, s'ils étaient vivants, ils auraient été plus contents lorsqu'ils savent que je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne suis pas Jibril Malik. Il va dire aux gens, où était celui-là? Où était-le? C'est un pervers. Où était-le? Naam. Imaginez l'imam Malik, alayhi rahmatullah. Il est resté 40 ans pour écrire un livre. Ça s'appelle Mawatta. 40 ans pour écrire un livre. Regardez entre parenthèses maintenant, vous trouvez des gens qui n'ont même pas la licence, même pas. Chaque semaine, il écrit un livre. Chaque semaine, un livre. Un risala. Chaque semaine, un jeune de 20 ans. Chaque semaine, il écrit une petite risala. Masha'Allah. L'imam Malik, 40 ans, pour écrire un seul livre. Avec tout le ilm qu'il a. 40 ans, parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a peur qu'il écrive quelque chose de faux. L'imam Malik, rahimahullah, Abu Ja'far al-Mansour, le gouverneur de son époque, il l'a appelé chez lui dans son bureau, dans son palais. Il lui a dit, écoute, en bas, j'ai entendu dire et j'ai lu ton livre, Masha'Allah, Mouta, Masha'Allah, on va faire des copies, des milliers de copies de cela, et je vais les divulguer, propager dans toute yani, la khalifa islamique, pour que tous les gens soient obligés de prendre de ce livre. Masha'Allah, c'est une grande faveur pour l'imam Malik, une grande faveur. Qu'a dit l'imam Malik? Non, abadan, je n'accepte pas. Abadan. Les Sahaba, il a dit, se sont propagés dans les villes. Et ils ont dit d'autres choses. Je ne peux pas, moi, obliger les gens à ce qu'ils suivent ce que j'ai dit, moi. Regardez ceux qui ont peur d'Allah, et regardez le ilm. Lui-même, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté que son livre soit, yani, que les gens soient forcés de le suivre. Non. Et les gens, maintenant, ils te disent, tu es obligé de suivre un madhab, ou bien, yani, ça veut dire que tu n'aimes pas ce madhab et que tu es contre. Non, tu es contre le madhab. C'est pour ça que, attendez, je voulais dire quelque chose de très important, si je n'oublie pas. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Non, c'est pour ça que Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, a dit que, c'est pas seulement Cheikh Al-Albani, tout le monde doit dire cela. Nous, on a été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand je ne trouve pas le dalil, je n'ai rien trouvé dans cette chose, dans cette, le cas, mon cas, j'ai demandé à ulama, il n'y a pas de ulama, ils n'ont pas de dalil, je peux suivre l'une de ces grandes écoles, je la suis, dans telle chose, dans tel cas spécial. Naam, parce que ce sont des grands ulama. Naam. Et comme quelqu'un, comme a dit Cheikh Al-Albani, a dit quelqu'un qui va mourir. Et il n'a trouvé que quelque chose de mort. Il a trouvé un quoi? Un mouton mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu meurs ou tu manges de quelque chose qui est mort? Tu manges de quelque chose de mort. Donc, tu es dans le besoin, tu es dans le grand besoin et dans l'obligation. Il a dit la même chose. Quand je ne trouve rien, au lieu que je fasse des choses de ma tête, je prends de ce qu'on dit les ulama. Mais tant que j'ai un hadith sahih, et hadith qu'ont expliqué les ulama, jamais je ne laisse un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller chercher ce qu'ont dit les autres. Naam. De toute façon, il y avait aussi autre chose très important à dire, mais ça ne fait rien, je l'ai oublié. Naam. Je donne un exemple, c'est tout. Comme ça de ma tête. Je donne un exemple pour que vous compreniez, c'est tout, qu'est-ce que ça veut dire les écoles, etc. Et que celui qui ne suit pas l'une des grandes écoles, ce n'est pas quelqu'un qui est contre eux. Au contraire, c'est parce qu'ils les aiment. Ils les aiment et ils prennent de leurs conseils. Ils ont dit ne me suivez pas. Je donne un exemple très simple. Regardez. Par exemple, dans le Madhab Maliki, par exemple, il n'est pas interdit de jeûner le vendredi seul. Vendredi, tu veux jeûner, tu jeûnes. Tu rérogatoire. Imam Malik, rahmatullah, a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose ou un hadith qui interdise de jeûner le vendredi. Je parle du surérogatoire, nafila. Et tout le monde sait, enfin tout le monde, beaucoup de gens savent qu'il y a un hadith qui dit, tu ne peux pas jeûner le vendredi seul. Non, tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré chez une de ses épouses le vendredi, elle a dit, aujourd'hui j'ai jeûné. Il lui a dit, tu as jeûné hier? Elle a dit non. Il lui a dit, tu jeûneras demain, samedi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendredi, on ne peut pas le jeûner seul. Maintenant, toi tu as ce hadith qui dit que tu ne peux pas jeûner le vendredi seul. Il faut que tu jeûnes jeudi, vendredi ou vendredi, samedi. Et tu as le madhab de Malik, rahmatullah, qui te dit que tu peux jeûner le vendredi seul. De qui tu vas prendre? Tu vas dire, je suis maliki et je vais jeûner le vendredi, je m'en fous, même s'il y a le hadith qui dit non. Ou là tu dis, je suis salafi. Je prends ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, tu ne peux pas jeûner le vendredi. Naam. C'est ça le plus juste. Je suis ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis que ce qu'a dit l'imam Malik alayhi rahmatullah, ça se contredit avec ce hadith. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, je ne connais rien en ce sens. Je ne connais pas un hadith qui interdise cela. On lui dit, ya imam Malik alayhi rahmatullah, il y a un hadith qui interdit. Et je suis sûr, ya imam Malik, je suis sûr que si tu étais vivant, tu aurais sauté sur le hadith pour dire aux gens, attention, il ne faut pas jeûner le vendredi seul. Parce que tu as tellement de ilm et de piété, masha'Allah, que c'est impossible que tu dises quelque chose de ta tête alors que tu sais qu'il y a un hadith qui dit quelque chose de contraire. Naam, ça c'est un exemple très simple pour que vous compreniez bi'idhn azzawajin. Maintenant, on commence, inshallah, le dars du début, inshallah ta'ala. On va commencer par quoi? On va commencer par le grand titre qui s'appelle Istiqbal al-Kaaba, l'orientation vers la Kaaba. Là, j'ouvre une parenthèse très petite pour vous dire que si vous achetez le livre La prière du prophète, comme je l'ai dit en français, c'est important. Pourquoi? Parce que je viens d'en lire un peu, je trouve un peu quelques fautes. Je vais les corriger pour que vous les corrigiez aussi si vous avez le livre. Non, pour que il y ait des fautes de traduction, etc. Pour les corriger vous aussi, bi-idhnillahi azza wa jal. On commence, bismillahirrahmanirrahim. Cheikh al-Albani, à rahmatullah, a dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha qama ila salat, istaqbala al-ka'bata fil fardi wa nafl. » Cheikh al-Albani, à rahmatullah, a dit « Lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était debout pour la prière, il faisait face à la Kaaba. Il faisait face à la Kaaba dans les prières obligatoires et nafila. Obligatoires et surérogatoires. Naam. Wa amara sallallahu alayhi wa sallam bidhalika faqal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. C'est-à-dire a ordonné qu'on se mette face à la Kaaba. فقال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. نعم ثم استقبل القبلة فكبر. حديث رواه البخاري ومسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même se mettait face à la Kaaba et aussi il a ordonné à celui qui n'a pas bien fait la salat. Vous connaissez une personne qui a fait trois fois la salat devant le prophète صلى الله عليه وسلم et trois fois le prophète alayhi salam lui corrige, il lui dit répète trois fois, c'est pas comme ça la salat. Ensuite il lui a appris. Cette personne s'appelle Khalid ibn Rafi'a, et les ulama ont dit ce hadith on va l'appeler le hadith de celui qui s'est trompé dans la salat, le hadith de celui qui n'a pas fait correctement la salat. Ça s'appelle comme ça. C'est très courant dans les livres. Quand vous lisez les livres de fiqh, vous trouvez cet écrit comme ça. C'est par exemple comme dans le hadith de Moussi ou Fisalatihi. Comme dans le hadith de Moussi ou Fisalatihi. Comme dans le hadith de celui qui s'est trompé dans la salat. Celui qui s'est trompé dans la salat, c'est une personne que je viens de dire s'appelle Khalid ibn Rafi' et à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a corrigé trois fois. Al-Muhim. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته. نعم. اي le prophète صلى الله عليه وسلم pardon j'ai pas confirmé, il a dit اذا قمت الى الصلاه, qu'est-ce qu'il a dit à celui qui se trompait dans la salat? Il lui a dit اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Il a dit à celui qui se trompait dans la salat, quand tu es debout pour la prière, fais l'ablution parfaitement, fais ensuite face à la Qibla et dis le takbir. Bukhari ou Muslim. Naam. Fais l'ablution parfaitement, fais ensuite face à la Qibla et dis Allahu Akbar. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam fi safar yusalli an-nawafila ala rahilatihi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, il priait les prières surérogatoires et le huit aussi sur sa monture. Naam. Kana yusalli an-nawafil wa yutir ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi sharqan wa gharban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans un voyage, il priait les prières surérogatoires et le witr aussi sur sa monture, de quel côté qu'elle se tourna, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Hadith numéro 88. Et c'est un hadith sahih, bien sûr. C'est un hadith sahih. Rajawa aydan, muslim fi sahihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était sur sa monture, il faisait la prière, yani, d'après la direction que prenait la monture. C'est pour ça que quand on est par exemple dans une voiture, mais on est dans un bus, on veut faire la prière surérogatoire, nafila. C'est pas la peine de chercher la qibla. C'est pas la peine de chercher la qibla. Par exemple, une femme est assise avec son mari, lui il est en train de conduire et elle est en train de faire la nafila. Elle assise, elle fait avec sa tête, elle défend un peu sa tête, c'est l'inclinaison, elle dit Sami Allah min hamidah, elle lève sa tête, elle descend encore sa tête plus, et le sujoud. Et comme ça, elle fait deux quatre comme elle veut, bi'idhni azza wa jalla. Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, pourquoi quand il était sur sa monture, il faisait la prière dans n'importe quelle direction? Car Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ Sourate al-Baqarah, l'ayat 115. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ Allah azza wa jalla a dit, partout où vous vous tournez, là est le visage d'Allah. Partout où vous vous tournez, c'est-à-dire dans la salat. Partout où tu tournes dans la salat. Si tu es dans la nafila, c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. À condition que ce soit un nafila, et que ce soit quoi? Et que ce soit en voyage sur la monture. Et que ce soit en voyage sur une monture. Naam. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه أبو داود بسند حسن. نعم. Et quelquefois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelquefois quand il avait l'intention de prier des prières surérogatoires sur sa chamelle, qu'est-ce qu'il faisait? Il la tournait d'abord vers la qibla et disait Allahu Akbar, et ensuite il priait ainsi, quelle que soit la direction vers laquelle se tournait sa monture. Non. Donc de temps en temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il la tournait, il tourne d'abord la chamelle ou la monture, il la tourne vers la qibla. Quand il est maintenant en face de la qibla, il dit Allahu Akbar, et ensuite il la fait tourner de l'autre côté et il commence à marcher. Donc c'est bien aussi, de temps en temps, tu sais où est la qibla, tu te tournes vers la qibla, tu dis Allahu Akbar, et ensuite tu laisses la voiture aller, yani, même si c'est dans le côté ou le chemin inverse. Naam. وكان صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. أحمد والترمذي وصححه. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'inclinaison quand il était sur sa monture. Il faisait l'inclinaison, rukou', il faisait le rukou' et la prosternation aussi, sujoud, sur sa monture en baissant sa tête. Il baisse sa tête, c'est tout. Faisant la prosternation plus bas que l'inclinaison. Faisant la sijda, il la fait beaucoup plus basse que le rukou'. Ça veut dire quand on fait la prière assis dans la voiture ou sur un cheval ou sur un âne, qu'est-ce qu'on fait? On est assis, ça veut dire on est debout. Quand on est assis, ça veut dire on est debout. Quand on baisse un peu la tête, c'est le rukou'. On dit Allahu Akbar et on baisse un peu la tête, c'est le rukou'. On dit Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi, Sami Allah li min hamidah, je relève ma tête, tout en regardant bien sûr vers le bas. Je ne laisse pas mes yeux vers en haut. Naam. Ensuite, je dis Allahu Akbar. C'est la prosternation. Et je vais descendre ma tête un peu plus basse qu'elle ne l'était dans l'inclinaison. Naam. Pas au même niveau. Je la descends un peu plus bas. Un peu plus bas pour me montrer et montrer que quoi? Qu'il y a une différence entre l'inclinaison et la prosternation. Et comme ça, je fais bi'idhnillahi azza wa jalla. Ensuite, il a dit. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هو البخاري. نعم. Il a dit, et quand il avait l'intention de prier des prières obligatoires, il descendait de sa monture et faisait face à la qibla. نعم. C'est très important. نعم. Vous avez remarqué, et quand il avait l'intention de prier des prières obligatoires, il descendait et faisait face à la qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire l'obligatoire, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrêtait la monture et il descendait pour faire l'obligatoire. Quel avantage on prend? On prend que la salat obligatoire, on ne peut pas la faire assis sur une monture ou là sur une voiture. On l'a dans une voiture, on l'a dans un bus ou là. Mais on doit descendre et la faire debout. Faire debout sur le sol. Non. La faire debout sur le sol. Pourquoi? Parce que la prière surérogatoire, nafila, c'est celle qu'on peut faire tout en restant sur la monture. C'est pour ça que les sahaba, yani, discerner une salate, si elle était obligatoire ou pas, en voyant est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait sur la monture. S'il la faisait sur la monture, ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoire. C'est pour ça que le 8, salat le 8, n'est pas obligatoire. C'est une sunna mu'akkada. Quelle est la preuve? La preuve, je viens de le dire, ça fait 2 minutes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière du 8 sur sa monture. Et maintenant, on vient de dire, mais quand il y a une prière obligatoire, il descend. Donc, puisqu'il faisait le 8 sur la monture, voilà une preuve que le 8 n'est pas obligatoire. Mais, entre parenthèses, quand quelqu'un est dans le besoin, dans la darura, il est dans un bus, si le bus n'arrête pas, il y a la femme avec, elle est avec son mari ne veut pas arrêter de faire la salate, dans ce cas, elle est obligée de la faire assis. Dans ce cas, on la fait assis. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de laisser passer yani, une salate jusqu'à ce que son moment sorte. On n'a pas le droit. Donc, je suis obligé, je la ferai assis dans ma monture. Min bab ad-darurat tubih yani darurat tubih al-mahdurat, en ce sens que yani ce qui est obligatoire rend yani l'illicite le rend licite. Naam, طيب, autre chose. Wa amma fi salati al-khawf ash-shadid, mais en ce qui concerne la prière lors d'une grande peur ou bien d'une crainte sévère, naam, faqad sanna رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. نعم, أو غير مستقبليها. حديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. Mais quand il y avait une grande peur, par exemple, le prophète صلى الله عليه وسلم a instauré l'exemple pour sa umma de faire quoi? De prier ou bien à pied, de prier à pied bien sûr, ou bien en étant debout sur les pieds, ou bien en étant sur une monture, faisant face à la Qibla ou sans faire face à la Qibla. Non, quand c'est classe, il y a une grande peur. D'ailleurs, il y a même une salat qui s'appelle la prière de la crainte, la prière de la peur. Non, on a peur de l'ennemi en face, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on ne fait pas la prière du tout et on risque de mourir, ou bien on la fait, mais il y a une tout en marchant par exemple, tout en étant sur la monture, je ne peux pas descendre et faire l'iqama et faire, l'ennemi va sauter sur moi. Donc je peux la faire tout en marchant, tout en étant sur la monture, etc. Je peux faire la salat obligatoire. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ بَيْهَقِي بِسَنَدْ مَفْصَحِحَيْنِ. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quand les armées se rencontrent, hein, quand les deux armées se rencontrent, alors la prière, c'est par le takbir et le signe de la tête. Alors la prière, c'est quoi? C'est seulement le takbir et le signe de la tête. Maintenant, yani, les deux armées se sont rencontrées. Nous sommes en face de nous, et c'est quoi? Classe, c'est l'heure de la prière. Est-ce que je peux donner mon dos à l'ennemi? C'est impossible. Donc, je fais la salat seulement yani, en disant Allah Akbar et en faisant des gestes de la tête. Je dis Allah Akbar, je descends un peu ma tête. C'est le recours. Ensuite, je dis Sami Allah Alim Hamida et comme ça avec ma tête. C'est tout. Subhanallah Azim. Vous remarquez quoi ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la salat est tellement importante qu'il n'y a pas un endroit où il est possible de ne pas la faire. Il n'y a pas un moment où là où tu peux dire je suis excusé, je ne la fais pas. Tu ne peux pas. Sauf si quelqu'un a perdu la raison, si quelqu'un s'est endormi, si quelqu'un a oublié, si quelqu'un est devenu fou, c'est tout. Sinon on ne peut pas, tu dois faire la salat. Est-ce que vous connaissez un endroit plus difficile que celui-là? Il y a l'ennemi qui est en face de toi, il va te tuer et tu n'as pas le droit de dire je ne fais pas la prière. Naam. Allah Ta'ala te dira je t'ai pas dit de la faire normale, mais il y a une autre façon de la faire, mais seulement il faut faire la prière, il faut la faire. Et regardez, si quelqu'un meurt tu as l'ennemi en face de toi. Si tu meurs, tu meurs shahid, shahid bi idnillah. Shahid, masha'Allah alayh. Shahid qui a cette chose que personne n'a, cette chose. Naam, cette faveur. Et ce shahid, si tu meurs, tu meurs shahid. Et tu n'as pas le droit de dire, je ne fais pas la salat. Naam, tu dois faire la salat dans les conditions que je venais de décrire. Naam. Il a dit, wakana. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم روى الترمذي والحاكم وصححه وهو في إرواء الغليل. نعم حديث numéro 292. Et le prophète صلى الله عليه وسلم disait ce qui est entre l'est et l'ouest c'est la qibla. Ce qu'il y a entre l'est et l'ouest c'est la qibla. Et dans un autre hadith, جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سارية. Il a dit une fois nous étions avec le prophète صلى الله عليه وسلم lors d'une expédition. نعم. فأصابنا غيم. Et le ciel devint nuageux, plein de nuages. فأصابنا غيم. فتحيرنا واختلفنا في القبلة. Alors, nous avons divergé dans la recherche de la Qibla. On est devenu perplexe. Face aux nuages, on ne sait plus où est le soleil, par exemple, pour définir la Qibla. Il a dit, فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ. Il a dit, alors chacun d'entre nous pria dans une direction différente. Naam. Et chacun pria d'après sa propre conviction. Il a dit, فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. Et chacun d'entre nous dessina des marques devant lui. Pourquoi? Pour connaître nos positions. Comme ça, quand les nuages se dissiperont, on va voir, yani d'après les marques qu'on a tracées, on va voir qui a fait la salat vraiment dans la qibla. Il a dit, فلما أصبحنا نظرنا. Le matin quand on s'est réveillé, on est allé voir. On est allé voir les marques. فَإِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَى. Alors, nous avons constaté que nous n'avions pas prié vers la Qibla. Les marques, les flèches, etc. n'étaient pas dirigées vers la Qibla. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم. Nous avons alors dit cela au prophète صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِعَادَةِ. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous a pas ordonné de recommencer la salat, la prière. وَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ. Il a dit, votre prière est suffisante. Naam, votre prière est suffisante. Ce hadith, bien sûr, il est authentique. Il se trouve aussi dans Irwa al-Ghalil, du Cheikh al-Albani, numéro 296. Naam. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو البيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة. Il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم priait vers la Palestine, vers Beit al-Maqdis, avec la Kaaba devant lui. Non, la Kaaba devant lui, mais il se dirigeait vers Palestine avant que Allah Azza wa Jal ne l'oblige à qu'il se dirige vers la Mecque. Non. Il a dit, avant que le verset suivant n'ait été révélé. Quel verset? Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, c'est-à-dire la Mecque. Ah, il a dit, فَلَمَّا نَزَلَتْ. Lorsque le verset est descendu, اِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit face à la Kaaba. فَبَيْنَ مَنَّاسِ بِقُوبَى فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة البخاري ومسلم. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla fait descendre le verset où il lui a dit maintenant dirige ton visage vers la mosquée sacrée, il a dit quand ce verset fut révélé il y avait des gens à Quba, une mosquée s'appelle Quba, il y avait des gens là-bas qui priaient la prière du matin, sauf ils ne savaient pas que la Qibla avait changé de direction, ils ne savaient pas, ils étaient toujours orientés vers la Palestine, ils ne savaient pas. Alors quelqu'un est allé vers eux et il leur a dit quelque chose du Coran a été révélé hier dans la nuit au messager sallallahu alayhi wa sallam et il fut ordonné de faire face à la Kaaba. Alors faites face à la Kaaba. Le rapporteur a dit leur visage était tourné vers le Shem, Naam, l'autre côté, et ils se tournèrent dans la salat et en même temps leur imam se tourna pour faire face à la Qibla avec eux. Naam, regardez dans la salat et ils ont changé de Qibla sans quitter la salat et rentrer dans une autre salat. Vous avez remarqué, on a parlé la fois passée de différents avantages qu'il y a dans ce hadith. Entre autres, on a dit qu'on pouvait parler avec quelqu'un qui est dans la salat quand c'est quelque chose d'important. On dit à quelqu'un qui est dans la salat, pardon, tu te trompes, tourne un peu à droite, tourne un peu à gauche, tu n'es pas dans la Qibla, attention ceci, cela. On peut parler dans la salat avec quelqu'un. Le mouhim. Vous remarquez autre chose, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, s'il se trompe dans la salat ou là, qu'est-ce qu'il fait? Directement, il dit salam alaikum et il recommence une autre salat. Non, il croit que c'est ça la solution. C'est très simple. Attends, ah bon, j'ai dit bougie. Allez, salam alaikum et je vais recommencer une autre salat. Ce n'est pas comme ça. Quand tu rentres dans une salat, tu n'as pas le droit de sortir quand tu veux toi. Non, tu n'as pas le droit de sortir quand tu veux toi. L'azur, je l'ai dit dans le Coran, wala tubtilu a'malakum. N'annulez pas vos actions. La salat, c'est quelque chose de très très important. Naam. La salat, ça se coud, le verbe coudre, hein, comme un vêtement troué. On le rapièce. On met une pièce et on coud la pièce. Tellement, comme j'ai dit une fois, la salat, c'est un seul vêtement. Il n'y a pas un deuxième vêtement qui lui ressemble. Et ce vêtement, puisqu'il n'y a aucun autre vêtement qui lui ressemble, donc tu cherches une pièce et tu la mets à ce vêtement, tellement il est cher et tellement il n'a pas le double. C'est la même chose la salat. La salat, tu ne dis pas comme font les gens. Comme ça, facilement, tu dis salam alaikum et tu commences une salat de nouveau. Ceux-là, subhanallah, ils n'étaient même pas dans la Qibla. Ils avaient la Qibla dans leur dos. C'est une grande excuse pour dire salam alaikum, ils sortent de la salat. Allah alaikum, on s'était trompé. Donc, où est la Qibla? La Qibla est dans notre dos, place, donc Inch'Allah, on va dans la nouvelle Qibla et Allahu Akbar, il commence une nouvelle salat. Non. La salat, c'est très important. On ne peut pas sortir et commencer une nouvelle. Non. On doit, dans la salat, se tourner et prendre la bonne direction de la Qibla. Non. Al-Qiyam, maintenant, très important. Le deuxième chapitre, Al-Qiyam, se tenir debout dans la salat. Quiconque n'a pas le point rouge, qu'il m'écrive pour que je sache qu'il y a le son et que les choses marchent normalement. Est-ce que... d'accord. Numéro 1. Jazakallahu khairan. Barakallahu khairan. Donc, les choses, inshallah ta'ala, normal, alhamdulillah, ya zawaji. Jazakallahu khair. Al-Qiyam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wa tatawu'i, i'timaran bi qawli ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours debout dans la prière. Soit dans la prière obligatoire, et soit dans la prière surérogatoire. Pourquoi? Pratiquant l'ordre de Allah le glorifié, qui a dit dans le Coran wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Il faut se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Naam, wa qumu lillahi qanitin. Donc, la base c'est quoi? C'est de faire la salat toujours debout. C'est ça la base. Naam. Et il a dit ici, il a dit, wa amma fi safar fa kana yusalli ala rahilatihi an-nafila. Mais quand il était en voyage, sallallahu alayhi wa sallam, il priait les prières surrogatoires sur sa monture. On vient de le voir. Naam. On vient de le voir. Quand je suis en voyage, je peux faire la prière assis sur, dans ma voiture, ou là dans le bus, ou là dans l'avion, ou là, si je veux faire ma nafila, je peux la faire tout en étant assis. Si je suis quoi? Si je suis en voyage. Naam. Wa sanna li ummati أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانهم كما تقدم وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون سورة البقرة الآية 238. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué comme exemple à sa nation de prier pendant la crainte sévère, si on a vraiment peur, de prier à pied ou sur une monture, comme on vient de le voir. Pourquoi? Car là, je l'ai dit dans le Coran, soyez assidus au salat, et surtout, la salat médiane. Vous savez ce que c'est la salat médiane? C'est salat al-asr. Il est au milieu, salat al-asr. Surtout celle-là. Surtout celle-là. C'est très, très, toutes les salats sont importantes. Mais celle-là, un peu plus. Salat al-asr. Je vous ai cité les derniers là, vous connaissez le hadith, من فاتته العصر كأنما وتر أهله وماله. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, quiconque n'a pas fait la salat de l'asr, yani sans excuse, jusqu'à ce que le maghrib a fait l'adhan, il a dit c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Allahu Akbar, tellement c'est l'asr, yani quelque chose de grave. Il a dit c'est comme s'il avait perdu tous ses biens ou la quoi, toute sa famille. À cause de quoi? À cause du salat al-asr que yani, il n'a pas fait. Il n'a pas fait sans excuse. Naam. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Et puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah Azza wa Jal comme il vous a enseigné. Que leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, en vérité, la prière de celui qui est assis vaut la moitié de la prière de celui qui est debout. Naam. Rawa Ahmed et Ibn Majah avec Sanad Sahih. Sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui seul, s'il fait la prière assis, il a toutes les récompenses. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, a beaucoup de particularités. Particularités, beaucoup. Il peut se marier avec plus de 4. Il peut faire la prière assis, ça lui compte complètement. Il peut faire jeûner 4, 5, 6 jours d'affilée, sans couper. Il y a plusieurs choses qu'il peut faire et nous qu'on ne peut pas faire. Ça s'appelle des particularités. Il y a même des ulamas qui ont écrit des livres sur les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour savoir, yani, qu'est-ce qu'il peut faire que nous, on ne peut pas faire. Naam. Parmi ces particularités, c'est que quand il fait la salat assis, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui donne l'ajr comme s'il l'avait fait debout. Naam. Tout à l'heure, certaines personnes m'ont dit que c'était difficile pour eux de rentrer dans la salle. Vous savez que la salle, juste j'ai ajouté 3 os. Vous voyez dans la bannière, apprendre l'islam, j'ai ajouté 3 petits os au début, 3 petits os à la fin, après sahih. Ces 3 petits os, ils peuvent changer le favorite. C'est-à-dire, quand tu rentres dans favorite, tu cliques sur apprendre l'islam, peut-être ça te fait pas rentrer dans la salle. Car c'est devenu une autre salle à cause des 3 petits zéros. C'est pour ça que il faut la remettre de nouveau dans les favorites. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bint Hashmi a dit, voilà. Quelqu'un m'a dit justement c'est ce qui s'est passé. Naam. Il faut faire la salle de nouveau dans les favoris. Sinon tu vas rentrer, il va te dire la salle est fermée. La salle est fermée. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Alors que la salle est ouverte. Mais peut-être même il y a des gens peut-être qui sont partis. Je disais, Bint Hashmi a dit, on va vérifier ce qu'elle a dit. Allah yahdiha si elle s'est trompée. Si une personne ne prie pas ne peut pas, elle a oublié que si une personne ne peut pas prier debout, qu'elle prie assis. Si il ne peut pas assis, qu'il prie sur le côté. Si ces trois indications sont impossibles, qu'il prie selon ses incapacités. La prière debout est meilleure, assise vaut la moitié, et celle couchée vaut la moitié de celle assise. Alhamdulillah. Voyez. Qu'est-ce qu'il va dire? Wa'ada. النبي صلى الله عليه وسلم وعاد مريضا فرأه يصلي على وسادة فأخذها فرام بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرام به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. نعم طبراني والبزار وبيهقي وسنده صحيح كما السلسلة صحيحة. Le prophète صلى الله عليه وسلم visita une personne malade. Il est allé voir une personne qui était malade. Il lui a, bin ta'ala, rendu visite. Nam. Comment qu'il a trouvé ce malade? Il a trouvé ce malade en train de prier sur un oreiller. Il ne pouvait pas poser sa tête par terre. Il priait sur un oreiller. Et dans un autre hadith, il est dit que il prenait l'oreiller, il le mettait comme ça sur sa tête. Yani une personne qui fait, imagine une personne qui fait une salade, tu es assis et tu ne peux pas t'incliner. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses un oreiller en face de toi et tu ne peux pas te prosterner. Quand tu veux te prosterner, tu lèves l'oreiller, tu le mets comme ça contre ton front et tu dis là, je me suis prosterné, je ne peux pas. Que lui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui prit l'oreiller et le jeta. Alors l'homme prit un bâton pour y prier. Il prit un bâton pour s'appuyer dessus. Le prophète Sarsan lui prit le bâton, il le jeta. Ensuite il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Prie sur le sol si tu peux. Sinon, si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Fais des mouvements avec ta tête en faisant la prosternation plus bas que l'inclinaison. C'est très simple. Chose. Tu ne peux pas toucher le sol avec ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des inclinaisons avec ta tête. Quand tu descends un peu ta tête, tu te dis dans ton cœur, c'est l'inclinaison. Quand tu la fais descendre encore plus, tu dis dans ta tête, c'est quoi? C'est une prosternation. Non. Mais il n'y a pas, tu prends comme ça une chose et tu la mets contre ton front. J'ai vu, il y a ici dans beaucoup de mosquées, peut-être qu'il n'y a pas chez vous, des chaises spéciales sont des chaises qui ont été fabriquées spécialement pour les chiites. Ce sont des chiites. Qu'est-ce qu'il fait? Il est malade, il ne peut pas faire la prière debout. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit sur cette chaise. Et cette chaise, quand tu t'assois sur elle, yani, tu peux la fermer. Yani, y a quelque chose comme ça qui vient de côté. Par exemple, ça vient du côté gauche, quelque chose comme ça. Et tu la mets du côté droit. Tu deviens toi à l'intérieur de la chaise et tu as quelque chose comme ça en face de toi. Par exemple, où tu peux poser par exemple un café ou là un livre ou là. C'est devenu en face de toi. Non, c'est quelque chose qui se ferme et qui s'ouvre, qui devient en face de toi. Sinon, tu la mets comme ça de côté. Et en face d'eux, qu'est-ce qu'ils ont? Quand ils s'assoient sur cette chaise, cette chaise contient un coussin, un oreiller. Donc, il fait la prière comme ça assis et au lieu de faire le soudoud, il descend comme ça un peu sa tête sur l'oreiller. Comme quoi, j'ai fait la prosternation. Et bien sûr, comme les chiites, c'est la secte la plus loin de l'islam en ce qui concerne la sunna. C'est la secte la plus loin de l'islam en ce qui concerne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voyez comment ils font la prière, vous allez rire, mourir de rire. Un moyen. Ils ne savent pas que quand on ne peut pas faire le soudoud, on fait seulement avec les inclinaisons. Non, on incline la tête, c'est tout. Non, avec les mouvements de la tête, c'est tout. Ils ne savent pas cela. Ils croient qu'on peut faire le soudoud sur un oreiller. Non. Et malheureusement, ils achètent cette chaise très chère. Non, elle est très chère cette chaise. Une chaise spéciale. Non. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que je veux dire? Non. Pour terminer, on va voir, inshallah ta'ala, la chose avec laquelle on termine. As-salatu fi safinati, la prière quand on est sur un bateau ou sur une barque. Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani salati fi safina fa qala salli fiha qa'iman illa an takhaf al-gharq sahahu al-hakim wa faqhu al-dhahabi wa hadithun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui posa cette question: comment faire la prière sur un bateau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: prie-y debout, à moins que tu n'aies peur de te noyer. Donc vous remarquez, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: tu pries debout. Donc c'est la règle générale dans la prière, surtout dans l'obligatoire. Tu dois prier debout, c'est le premier cas. Si tu ne peux pas, tu as peur, par exemple des fois on est dans une petite barque, tu te mets debout, elle risque de se renverser, tu tombes dans l'eau, peut-être que tu ne sais même pas nager. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu pries assis, car la barque est tellement petite que ou bien il n'y a pas de place, ou bien tu as peur de tomber à gauche ou tomber à droite. Donc la règle, on doit faire la prière debout. Si on ne peut pas, on l'a fait assis. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. نعم هو في الإرواء وفي في السلسلة الصحيحة numéro 383 في إرواء الغالية. Et lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم vieillit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un appui à sa place de prière pour se tenir dessus. نعم il a pris comme une sorte de bâton, un appui. Il l'a laissé à la place où il faisait la prière. Pourquoi? Pour se tenir dessus. On arrête Bidna Azzawadi ici. Et il reste beaucoup de choses à dire pour les prochaines doros, inshallah ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. On fait comme d'habitude, Malish. Je vais voir d'abord pour les frères et les sœurs. Je vais voir d'abord ceux qui n'ont pas les points rouges ici. Non. Si c'est aujourd'hui qu'il n'a pas le point rouge, tamallah. Non. Qui c'est qu'il y a encore dans la salle qui n'a pas de point rouge? Non. Un Tajmi? Oui. Oui. Le Fakir demande de m'aider. Où est-ce qu'il est Fakir d'abord? Il faut trouver d'abord les mouchkilas. Trouver d'abord les gens, c'est pas. Non, trouver d'abord les gens. Fakir, je t'ai pas trouvé, hein. Juste après, Tamallah. Tu me dis juste après Tamallah. Où est-ce qu'il est Tamallah? C'est ça le mouchkila. Tamallah Oum Safiya, il n'y a pas de faqir. Le Tamallah Oum Safiya. Non, il n'y a pas Tamallah. Quatrièmement, en partant du bas. 1, 2, 3, 4. Ah, je vois pas. Pardon, je vois pas. 1, 2, 3, 4. Quatrième partir du bas, c'est 1, 2, 3, 4. C'est Abu Firdaus. Tamallah, il est au-dessus de moi. Ça y est, il est au-dessus de moi. Moi, je ne vois pas. L'arabe, je ne vois pas. Même Tamallah, je ne vois pas où il est. C'est ça le mouchkil. Même Tamallah, je ne vois pas où il est. Ça y est, parmi les mains levées. Là, ça y est, parmi les mains levées. Non, parmi les mains levées. Ça y est. طيب هذا الدو ان شاء الله واش كاين لي شوف هذا في واش كاين لي اكسيد في هذا باش نشوفوا طيب شتيون في الفاكر شتيون في بوان روج شتيون في بوان روج نعم انت ما شفتش اكسيد في هذا سافير ديال لي بالا نعم. طيب جي تروفي وسكاليتي أم عبد الله، أم عبد الله أطفال مسلم أم عبد الله. إن شاء الله تعالى vous commencez à envoyer vos questions aux deux frères et aux deux sœurs. Je cherche un homme, Abdullah, si je la trouve. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Man andou, inshallah, saut. الصوت بارك الله فيكم، هل فيه صوت؟ طيب الفقير إلى الله تفضل إن شاء الله. أول سؤال، posez-moi des questions إن شاء الله qui ont rapport avec le درس. بارك الله فيكم. قام الله جيدي الفقير إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا فضلكم. Doit-on réciter le Fatiha à voix basse, sans prix, derrière un imam qui récite à voix haute? Si oui, attendons que l'imam a terminé. Pas mal là, ce n'est pas dans le cours. Chauffe, qu'est-ce que j'ai dit? Posez-moi les questions dans le cours. Où tu vois ce qu'il avait donné un ordre de passage? Ça, la question n'est pas dans le cours. Pas mal là. Ça n'est pas dans le cours. Normalement, la priorité à celui qui pose la question dans le cours. Non. Parce que les questions qu'il a posées vont arriver, inshallah ta'ala, dans la prochaine salat et les prochains cours. Mais allez, je lui réponds très vite, sans aller beaucoup dans les délais. Qu'est-ce qu'il a dit? Doit-on réciter la fête à voix basse quand on prie derrière un imam qui récite à voix haute? On ne doit pas la réciter à voix basse, sauf s'il se tait et il nous donne du temps. Si oui, pas oui. Pendant le sujoud, doit-on avoir les yeux fermés ou ouverts? On doit avoir les yeux ouverts du début de la salat jusqu'à ce qu'on termine. Naam. Tayyib. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh. Une femme qui, par exemple, est en voyage avec son mari, c'est l'heure de la salat. Asr, par exemple. Il s'arrête pour faire la prière. La femme peut-elle prier debout à l'extérieur de la voiture et à la vue des gens? Naam. Elle prie debout et à la vue des gens. Naam. Ce n'est pas interdit. Naam, elle prie debout devant les gens. Elle essaye par exemple d'être dans un endroit un peu yani réservé, si je puis dire. Naam. Et elle demande par exemple à ce que la voiture soit dans un endroit par exemple où quand elle fait la prière on ne la voit pas, par exemple quand elle fait le sujoud à cause de la fitna, c'est tout. Mais elle fait la prière et elle n'a pas le droit de dire, puisqu'il y a des gens, donc je vais faire la prière à la maison. Naam, بإذن الله عز وجل. طيب, c'est à qui le prochain tour, inshallah? Alaykoum salam, Fawzi 93, prépare-toi. Salam alaykoum, mon père est très malade. Est-ce qu'il peut faire la prière avec les yeux? Il fait la prière, au lieu de la faire avec les yeux, il la fait avec la tête d'abord, s'il peut. Un peu la tête. Regarde, il fait juste bouger un peu la tête, c'est le rukou. Il fait juste yani la tête un peu plus bas, c'est le sujoud, c'est mieux. Mais si sa tête ne peut pas bouger, c'est ce qu'il fait, il est obligé de la faire avec les yeux. Naam, il est obligé de la faire avec les yeux quand il lève les yeux, il descend un peu les yeux, c'est quoi? C'est le rukou. Quand il les descend plus, c'est le sujoud. De toute façon, il fait la prière dans la condition où il peut. Et il ne peut pas dire, donc je ne vais pas faire la prière parce que je ne peux pas la faire avec la tête, ou là je ne peux pas la faire dans une autre position. Non. C'est à qui le tour, Inch'Allah? Om Abdullah. Quand l'imam fait des doigts dans la salat de witr et qu'il ne lève pas la main, doit-on lever les mains ou pas? Om Abdullah, c'est hors sujet. La question est hors sujet. Quand l'imam doit faire des doigts dans la salat de witr et qu'il lève les mains, doit-on les lever ou on ne les lave pas? On les lève. On les lève, comme a dit Cheikh Al-Albani, mais ce n'est pas dans le cours. Naam. Pouzi 93, tafadhal. La yadur, inshallah. La yhammak. Alaykum salam. Existait un délit qui prouve que lorsque l'on prie en groupe, les personnes qui prient derrière l'imam ne doivent pas partir avant que l'imam se retourne. Allah augmente notre utile. Existe-t-il un délit qui prouve que lorsque l'on prie en groupe, les personnes qui prient derrière l'imam ne doivent pas partir avant que l'imam se retourne. Qu'Allah augmente notre utile. Naam, il y a un hadith sahih. C'est un hadith que Cheikh Al-Albani a dit hadith sahih. Naam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne doit quitter, yani quitter l'endroit jusqu'à ce que le imam, yani, ne soit plus en face de la qibla. L'imam, quand il termine la salat, qu'est-ce qu'il fait? Il dit salamu alaykum wa rahmatullah, par exemple à gauche, salamu alaykum, et il reste en face de la qibla, il dit trois choses. Il dit astaghfirullah, 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 lahum tassalam, minka salam, tabarak al-jalla al-ikram. Il peut dire par exemple, ensuite, il se retourne vers les gens. Il ne doit pas rester plus que cela. Sinon, pourquoi? Car les gens n'ont pas le droit de se lever jusqu'à ce qu'ils se retournent vers eux. Donc lui, il n'a pas le droit de rester en face de la Qibla. Il va obliger les gens à ne pas se lever, à ne pas aller au travail, à ne pas aller je ne sais pas où. Donc, il lui dit qu'il déstarche là trois fois. Mohammed Assalam, Minka Assalam. Il se tourne vers eux pour qu'ils puissent, Inch'Allah Ta'ala, se lever de leurs endroits. Naam, c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih. Tayyib, dans la salle, c'est à qui le tour, Inch'Allah? Naam. Est-ce que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire pendant la prière du Subh ou du Fajr? La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas obligatoire dans la salat. Naam, c'est une sunnah bi'idhnillah azza wa jalla. C'est une sunnah bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. Prochaine question. Mohammed, prépare-toi. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que la fatigue est une cause pour prier, une prière obligatoire et surrogatoire? Jazakumullahu khayran pour vos réponses et le temps que vous accordez. Jazakumullahu khayran, toi aussi, mon frère ou la ma soeur. Il y a fatigue et fatigue. Naam, il y a fatigue et fatigue. C'est une fatigue. Je suis fatigué, mais je peux la faire debout. Alors il ne m'est pas permis de la faire assis. Sauf si c'est une surrogatoire. Naam, si c'est une surrogatoire, c'est autre chose. Mais dans la prière obligatoire, si c'est une fatigue, je suis fatigué, mais je peux la faire debout. Je suis obligé de la faire debout. Donc ce sont des choses qui reviennent à la personne elle-même. C'est toi qui sais, si tu peux debout, tu ne peux pas. Si tu peux debout, même fatigué, tu le fais. Même si tu t'appuies sur une chose, et tu le fais, debout. Car l'Azhar a demandé qu'on fasse la prière d'abord debout. Et celui qui a une cause, il a les hémorroïdes, ou là il a ce qu'on appelle sa tête commence à tourner, s'il reste debout, ou il va vomir ou là. Celui-là, quand il sent quelque chose, ça ne va pas, il s'assoit. C'est pour ça que, même si quelqu'un est très fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par debout d'abord. Ensuite, quand il voit, il a les varices, il a ceci, il ne peut pas, ça lui fait mal, il peut s'asseoir, Inch'Allah Ta'ala, après avoir commencé debout. Naam. Bi'idhnillahi Azza wa Jalla. Mohamed, ta question, Inch'Allah? Peut-être la question de Mohamed ne veut pas passer. Dans la salle, Inch'Allah, posez la question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour prier dans un bus, le takbirat, la takbirat ihram. Je la fais en direction de la Qibla. Et comment je ferai la suite? Barakallahu fikum. Naam. Mais elle ne passe pas. Pour prier dans un bus, si tu sais Où est la Qibla, tu te tournes vers la Qibla. Tu dis Allahu Akbar Ensuite, tu te tournes normalement où tu es assis. Tu t'assois normalement dans ta chaise. Dans le cas où tu sais où est la Qibla. Naam. Tu sais où est la Qibla. Tu commences par tourner vers la Qibla. Tu dis Allahu Akbar. Ensuite, tu t'assois normalement comme tu es. Mais si tu ne peux pas et tu ne sais pas où est la Qibla dans le bus et que tu as peur, si tu arrives dans l'autre ville, la prière sortira de son heure. Tu la fais dans n'importe quelle direction, sauf si tu veux grouper les deux salats. Si tu veux grouper les deux salats et les faire dans l'autre ville, à condition que tu groupes, et ce n'est pas une seule salat, ce sont deux salats, quand tu n'as pas encore fait le dhuhr, et c'est bientôt l'asr. Donc tu groupes les deux, tu les fais dans la ville, quand tu arrives, inshallah, c'est permis à cause du voyage. Saddam, inshallah, prochaine question. Comment faire lorsque Al-Ben, prépare-toi. Comment faire lorsque l'imam prie assis et que la femme qui prie à la mosquée pour X raisons. La femme ne peut le voir. Qu'elle prie dans une pièce, comme dans ce cas, comment fait-elle? Naam, elle, la femme, quand elle rentre dans une mosquée et il lui est impossible de voir l'imam, il y a certaines mosquées certaines mosquées ont une pièce en haut par exemple où tu peux voir l'imam, tu peux le voir, il y a par exemple une vitre fumée, on peut voir l'imam. C'est comme ça normalement qu'on doit faire pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose, on peut le voir d'en haut. Mais maintenant des fois on peut être dans une pièce où on est vraiment séparé de l'imam, on ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière debout. Naam, on fait la prière debout sans chercher à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ça la base. La base, que tout le monde doit faire leur prière debout. Donc moi, si je suis une femme, je rentre dans la mosquée, je la fais debout sans chercher à comprendre. Naam. Sauf si je sais que c'est un imam malade et que cet imam est par exemple marche sur une chaise roulante et qu'il fait toujours, c'est un imam du quartier, je le connais bien, et qu'il fait toujours la prière assis. Ça c'est autre chose. Sinon toi, tu ne cherches pas à comprendre. Tu l'as fait debout, bi'idhnillah azza wa jal. Talib'in, tafadlal. Taïb, où est-ce qu'elle est, Oum Mohamed, qui voulait poser sa question? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. C'est pas grave, inshallah. Salam alaikum. Voilà, nous avons prié au travail de la salat maghrib. L'imam s'est rendu compte que nous n'étions pas dans la bonne direction. Alors l'imam s'est tourné vers la bonne direction, nous l'avons suivi. Après le teshahoud, il a fait deux soujouds de la distraction. Ensuite il a fait salam, est-ce correct, barakallahu fi. Je ne crois pas. Naam. Je ne crois pas que dans ce cas il doit faire le soujoud. Naam. Car ceux qui étaient et faisaient la prière salat subh dans Masjid Quba, comme je viens de citer dans le hadith, quelqu'un est rentré, il leur a dit quoi? Il leur a dit, la prière vient de la Qibla a changé. Ils ont changé la Qibla et n'ont pas fait de soujoud. Naam, je ne crois pas qu'à cause de cela, on fait un soujoud. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. J'ai donné seulement mon avis. D'après moi, je ne crois pas qu'on fasse un soujoud pour cette chose-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Inch'Allah ta'ala, je chercherai encore. Naam. Taïb, je vais l'écrire. C'est à qui le tour? Il y avait. Naam. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question sur les abeilles. Quelqu'un qui tuait les abeilles, les mâles. Est-ce qu'il est là? Et il y avait une femme qui m'avait posé la question du lait. Elle disait, je prends des produits qui donnent le lait. Ensuite, j'allaite quelqu'un. Est-ce que c'est mon fils? Est-ce que ces deux personnes sont là? Ça y est, prochaine question, Chamou. Une autre, il y a la question à la Qibla. Si on fait soujoud, j'ai noté, Inch'Allah Ta'ala. Parce que c'était seulement mon avis. Ma première question, est-ce qu'on arrive en retard à la prière quand l'imam a déjà fini? Naam, on arrive en retard à la prière quand l'imam a déjà fini. est-ce qu'on prie directement la prière obligatoire ou faire d'abord deux rak'at de masjid puis prière obligatoire? Lorsqu'on arrive, l'adhan est déjà fini. Est-ce qu'on prie la salat masjid ou prier deux rak'at après l'adhan? Après l'adhan, avoir fait deux rak'at, on met deux intentions pour une salat masjid et on finira par l'adhan. Naam. Quand on arrive à la prière et l'imam a fini, on fait directement l'obligatoire et les deux rak'at du masjid rentrent dans l'obligatoire. Ce n'est pas obligé. Si tu veux, tu fais, tu es libre, tu peux, mais je veux te dire seulement que tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce que les deux rak'at de la mosquée, pourquoi on les fait? Ça s'appelle tahiyat al-masjid, c'est-à-dire on les fait pour ne pas s'asseoir. Pour ne pas s'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir dans la mosquée jusqu'à ce que je fasse deux rak'at. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas faire quatre rak'at, non seulement deux, mais quatre. Tu vas faire par exemple Zohr, tu vas faire l'Asr, donc c'est quatre rak'at. Donc la prière de la mosquée rentre dans quoi? Rentre dans la salat obligatoire. Et la même chose pour les deux rak'at de l'adhan. Les deux rak'at de l'adhan. Tu fais les deux rak'at de l'adhan, elles suffisent et remplacent les deux rak'at de tahiyat al-masjid, de la salat du masjid. Naam. Car la salat du masjid n'est pas une salat qui est demandée en elle-même. Naam. C'est une salat qu'on fait à cause de ne pas s'asseoir. Maintenant, si on fait une autre salat à sa place, elle rentre dans l'autre salat. Elle rentre dans l'autre salat. Tu n'es même pas obligé de faire l'intention. Tu n'es même pas obligé de faire l'intention. Naam. Tu fais seulement l'intention, par exemple, de l'adhan, ça te suffit. Naam. Parce que l'autre, ce n'est pas une salat qui est demandée en elle-même. Elle est demandée pour seulement ne pas s'asseoir. Naam. Sid Ahmed al-Jazairi, tafadhal. Alaykoum salam, rahmatullah. Si l'imam commence la prière assis, nous sommes obligés de la faire assis. Naam. Mais est-ce qu'on a la totalité du ajr ou juste la moitié? Celui qui l'a fait debout, barakallahu fi. Jazakallahu khair. Naam. Maintenant, l'imam l'a fait assis. Sah? L'a fait assis. Et moi, je suis obligé de la faire assis. Mais combien j'ai de ajr? Inch'Allah ta'ala, tu as tout le ajr. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as voulu la faire assis. Toi, tu l'as fait assis. À cause de. Pour ne pas diverger avec l'imam. Toi, tu as obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, il ne faut pas diverger avec l'imam. S'il fait assis, faites assis. Et Allah ta'ala, inshallah, il te donnera toute la salat, bi'idhnillahi azza wa jal. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Naam. Inshallah ta'ala, c'est à qui le tour? Allah jazik khair. Mohamed, salam alaikum. Je voulais savoir que faut-il faire quand on ne se souvient plus combien de rak'at on a fait pendant la salat. Et si on ne fait pas 8, qu'on s'est levé en retard de 10 minutes pour le fajr. Est-ce qu'on fait quand même 8? Je répète, je relis pour mieux comprendre. Naam. Salam alaikum. Si l'imam commence la prière, c'est pas cela. Si, je voulais savoir ce qu'il faut faire quand on ne se souvient plus combien de rak'at on a fait pendant la salat. Naam. Quand on ne se souvient plus, il n'y a pas comme ça, on ne se souvient plus. Mais des fois ça arrive, on ne sait pas ce qui s'est passé. Des fois on est dans la salat. On va par exemple terminer, ensuite on a oublié, on dit je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, là je ne sais plus ce qui s'est passé. Ici, on peut faire deux prosternations avant de quitter la salat. Avant de quitter la salat, on fait deux prosternations. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, At-Talaydri Kamsallah. Il a dit ici, il fait deux prosternations avant de quitter la salat. Bi'idna Azzawajal. Mais, le plus intéressant à connaître et à savoir, c'est que quand je ne sais plus combien j'ai fait, ça se divise en deux groupes, en deux sortes. Ou bien, je à 50%, je dis c'est comme si c'est ceci ou c'est cela, 50%. Ou bien, c'est plus de 50%. À 70%, je dis par exemple, c'est j'ai fait 3 et non pas 2. Non. Quand on oublie la salat, on ne sait pas combien qu'on a fait, ça se divise en 2. Des fois, c'est à 50%, c'est tout. Je ne sais pas si c'est 3, si c'est 4. Si c'est 3, si c'est 4. Et des fois, je dis par exemple, à 70%, c'est 3. À 70%, c'est 3, ce n'est pas 4. Dans le premier cas, quand c'est à 50%, je ne sais pas si c'est 3 ou si c'est 4, si c'est 2 ou si c'est 1, je me base toujours sur le moins. Je ne sais pas, je dis, par exemple, j'ai fait 3 ou la 4. Ou là, je ne sais pas, comment je vais faire. Je me base sur 3, sur le moins. Et qu'est-ce que je fais? Et avant de dire salam alaikum, je fais 2 prosternations à l'intérieur. Elle dit, c'est quand je ne sais pas et je suis à 50% dans le doute. Mais maintenant, si je dis par exemple, je ne sais pas si c'est 3 ou si c'est 4, mais je crois 60-70% que c'est 4. Qu'est-ce que je fais? Je dis donc c'est 4, je fais comme si c'était c'est 4, je termine ma salat et je fais 2 prosternations à l'extérieur de la salat, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'avais des doutes forts. J'avais ce qu'on appelle tahri. Tarjih. Et dans le premier cas, c'était seulement des doutes à 50%. Voilà la règle en général, Bidna Azzawajal. Elle viendra avec beaucoup plus de détails. Elle viendra en son moment avec beaucoup plus de détails, Bidna Azzawajal. Pour la femme qui prend des wasmou, qui prend des vitamines ou des médicaments pour le lait, Naam, si elle allait quelqu'un dans les deux années, et 5 fois, jusqu'à ce qu'il soit rassasié 5 fois, Inch'Allah, c'est son fils. Naam, il devient son fils de lait, à condition que ça soit dans les deux années et que ça soit au moins 5 fois. Bi'idhnillahi Azzawajal. Tayyib, c'est pas qu'il tourne, Inch'Allah. Et la deuxième question, Cheikh Baraklofik. Tayyib, où est-ce qu'elle est la deuxième question? Ah, ça. Et si on ne fait pas 8 et qu'on se levait en retard de 10 minutes pour le Fajr, est-ce qu'on fait quand même le 8 Baraklofik? Non, quand on se réveille en retard, s'il y a toujours du temps, 10 minutes, il y a encore du temps. Le soleil, mazal, va se lever dans une heure le soleil. Je commence par le 8. Non, je commence par le 8. Ensuite, le Fajr. Ensuite, Sobh. Naam, je commence par le 8. Ensuite, je fais l'Adhan. Et je fais la Sunna du Fajr. Ensuite, je fais l'Iqama un peu plus tard. Et je fais, bi'idhnillahi ta'ala, le Sobh. Naam, et je fais, bi'idhnillahi ta'ala, le Sobh. Naam, c'est son père. L'akhor, c'est son père. Parce que la femme a seulement poussé le lait pour qu'il sorte, mais le lait dans sa base existait. Le lait existait à cause de son mari. Naam, parce qu'elle est mariée et son mari lui a donné le lait. Mais le lait, il est comme bloqué, ou là, elle en a seulement un peu. Alors pour le pousser, le fortifier avec les médicaments, ce sera son fils et son mari sera son père. Bi'idhnillahi ta'ala. Mu'min 84, tafaddal. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le cours. Puis-je la poser? Fadal, fais vite, bah, mu'min. Ya ilallah, ya wa shirik. Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib, je vais voir qu'est-ce qui est écrit. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. طيب. On refuse des questions en dehors du cours. On refuse des questions en dehors du cours. طيب. فيه صوت بنت هاشمي فيه صوت. نعم فيه صوت. بنت هاشمي. La prochaine fois, inshallah ta'ala, on va faire des questions seulement. Yani, ceux qui sont dans la salle seulement posent des questions, pas ceux qui lèvent la main. Pas ceux qui lèvent la main. Et on laissera ceux qui lèvent la main pour des séances ou des séquences spéciales. Naam, pour des séquences spéciales, comme ça, comme par exemple, disons le vendredi ou là, on va faire questions libres à main levée. Comme ça. Dans ce cas, quand c'est à main levée, aussi, on n'a pas besoin de ceux qui sont dans la salle. Sauf un frère et une sœur pour ceux qui veulent rester anonymes. Naam. Donc, aujourd'hui, inshallah ta'ala, aujourd'hui c'est trop tard. Beaucoup de gens ont levé la main. On termine seulement aujourd'hui. C'est la dernière fois, bi'idnillahi azzawajal. Comme ça, pour être équitable, tout le monde, inshallah, passe, yani, normalement. Naam. Et ça passe vite, inshallah ta'ala. طيب نصف نيت إن شاء الله تعالى نعم 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 لا question. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ je suis étudiant en licence dans le bâtiment génie civil. Il me manque 2 ans et demi pour terminer mes études inshallah. Le problème c'est que j'ai fortement envie de quitter Bilad France pour un pays musulman. Que me conseillez-vous cher sachant qu'en France c'est difficile. نعم Chauf, cela dépend de toi, bi'idna azzawajal. Si tu sais que, yani, si tu vas rester, tu vas tomber dans la fitna, et c'est très difficile, et que tu as, yani, inshallah ta'ala, l'occasion est venue de faire la hijra, n'attends pas. N'attends pas, bi'idna azzawajal. Naam, tu as l'endroit où y aller, et tu t'es préparé, bi'idna azzawajal, c'est là. Tu ne sais pas d'ici demain ce qui va arriver. Mais si tu n'es pas encore prêt, et tu sais que tu te tiens, tu es sûr, masha'Allah, yani, prends avec toi la licence et pars. Quand même, quand on a une licence, c'est mieux que quand on n'en a pas. Mais la licence, ce n'est pas un repère. Ce n'est pas un repère. Tu vois d'abord quoi? Tu vois d'abord, est-ce que tu peux tenir ou là tu peux pas? C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend de toi. Si tu as peur des fitnas, et il y en a des fitnas en France, il y en a, Ah, les fitnas, c'est pas ça qui manque. Tu as peur des fitnas, tu as peur de tomber, alors sauve ton din et sauve ta peau et la semaine prochaine fais la hijra. Khadinam la licence a dit. Rentrer au paradis c'est mieux que la licence. Mais c'est comme je t'ai dit, si tu es assez fort et tu n'es pas prêt pour la hijra, alors prends le deuxième cas. Fais l'istikhara et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te montrer. Naam, fais l'istikhara et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider, de ibn al-azawajal. Il aime ceux qui reviennent vers lui et lui demande de qu'il les aide. Bi'idnillah azza wa jalla. Prochaine question, inshallah, tafadhal. Iman qawi, prépare-toi, bi'idnillah. Omar Abdullah, que fait-on si dans le passé, on a fait des prières obligatoires assis sans être malade? Doit-on les refaire même si on ne sait pas combien on en a fait? Non. On les refait pas. On était jahil, on était ignorant. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de ne pas avoir demandé la science en son moment. Et à partir de ce moment, tu ne refais plus la chose. Tu fais la tawbah al-istighfar. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Naam. Iman qawi, tafaddali. والله عز وجل أعلم. وعليكم السلام ورحمة السلام وعليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Qu'en est-il de pouvoir lire le Coran en français sans faire ses ablutions? Quand on me dit que le fait qu'il soit écrit en français ne sont plus les paroles d'Allah. Allah Azza wa Jalla, désolé pour la question au sujet. Naam, Inch'Allah Ta'ala, tu peux le lire en français sans ablution. Naam. Tu peux le lire en français sans ablution. Le Coran en français, ce n'est pas le Coran. Le Coran en français, c'est une traduction approchée du Coran. Mais ce n'est pas le Coran, ce n'est pas lui-même. Naam. Le Coran, c'est, il a été descendu en arabe, bi'idnillah azza wa jalla. Donc tu peux le lire, le livre Hada, où c'est traduit, tu peux le lire sans les ablutions, et tu peux le lire même avec les monstrues. Naam, parce que ce n'est pas le Coran. Mais il faut lire la vraie traduction, et la bonne, la meilleure, c'est celle, comme vous devez savoir, de l'Arabie Saoudite, des affaires religieuses. C'est l'une des meilleures, si ce n'est pas, je crois que c'est la meilleure, ce n'est pas l'une des meilleures. Naam, mais s'il y a une page en français, une page en arabe. S'il y a une page en arabe, une page en arabe, yani, c'est écrit le Coran, là, c'est écrit quoi? C'est écrit le Coran en arabe? Dis-moi si c'est écrit le Coran. Phonétique. Naam. En arabe, phonétique. Naam, je ne comprends pas très bien comment en arabe. C'est arabe. Naam, si c'est le Coran en arabe, et il y a tout le Coran. Il vaut mieux ne pas le toucher quand une femme a les monstrueux. S'il y a tout le Coran en arabe, et avec lui, il y a quelque chose de phonétique en français ou en une autre langue étrangère. Il vaut mieux pour la femme, c'est-à-dire l'arabe avec des caractères latins. L'arabe avec des caractères latins. Naam, hada, c'est pas l'arabe. Hada, c'est d'après les caractères. On voit pas le sens, on voit les caractères. Si c'est écrit en latin, ce n'est plus d'arabe. Naam, ce n'est plus de l'arabe. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Naam. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit, surtout pour les petites ablutions. Surtout pour les petites ablutions. Naam. Naam, j'y comprends. Je comprends. On lit en français, on prononce en arabe. Naam. Les lettres sont écrites en français, par exemple, et tu lis en arabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Tayyib, c'est à qui, Inch'Allah, le prochain soual? Salam alaikum. Le takbir du début de la salat est-il meilleur de lever les mains au niveau des oreilles ou des épaules? Jazakallahu khairan. Les deux choses sont sunnah. Les deux choses que tu viens de citer, les deux sont de la sunnah. Que tu lèves au niveau des épaules ou au niveau des oreilles, les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait. Donc tu choisis, tout est valable bi idnillahi azza wa jal. Salafi de Lorraine, tafaddal. Pour les frères et les sœurs, inshallah ta'ala, qui peuvent, je dis qui peuvent, hein? Seulement ceux qui peuvent jeûner demain, premièrement c'est jeudi, et deuxièmement nous sommes dans Shahrullah al-Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur mois de jeûne après le ramadan, c'est ce char, et ce mois-là, Muharram. C'est le meilleur mois de Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le jeûne. C'est pour ça que ce mois est mieux que Sha'ban. Subhanallah al-Azim. Ce mois, qui sont jeûne, il est mieux que Sha'ban. Naam. Donc celui qui peut, inshallah ta'ala, demain jeudi, qu'il le fasse. Là, celui qui peut plus, qu'il le fasse. Déjà, je crois que c'est bientôt le 13, 14, 15. Je crois que nous sommes aujourd'hui le 13. Naam. Le 13. Nous sommes... Donc, demain, c'est le 13. Celui qui peut 13, 14, 15, c'est encore mieux. Masha'Allah, pour celui qui peut. Naam. Tayyib. Salafiyya de Lorraine a dit. Non, pas Salafiyya, Salafi. À Médine, Masjid Nabawi ou Mecca, Masjid Haram, il est très difficile de prier sunna sans que des personnes ne coupent la salat. Et pour éviter cela, j'ai dû repousser ces personnes avec ma main et parfois en insistant. Est-ce le meilleur comportement à avoir? Le problème était que beaucoup semblent ignorer que ça coupe la salat. Naam. Salafi, jazakallahu khairan. Ce problème, Cheikh Al-Albani, Allah yirahmou, on a beaucoup parlé. Il a dit que les gens croient que lorsqu'ils sont dans Masjid Nabawi, que c'est permis. C'est pour ça que certains ulama disent quoi? Disent que tu es dans la daroura. Tu es dans la daroura. Naam. Alors moi je dis que même là-bas, quand tu es dans le masjid de Médina ou là de Mecca, tu essaies au maximum de ne pas laisser les gens passer. Et c'est difficile. Quand tu peux, tu as un ajr. Quand tu peux pas, ça te dépasse. Allah ghalib si ça te dépasse. Mais toi, tu essaies au maximum de ne pas laisser les gens passer. C'est pour ça que, quand tu veux faire Nafila par exemple, prends toujours un endroit assez isolé. Naam. Il y a des places à l'arrière, il y a des places derrière les piliers, il y a des places derrière, une place derrière quelqu'un qui est en train de lire le Coran. Et comme ça, tu te colles à lui, tu te colles à son dos, et tu fais la prière. Et la yuklifullahu nafsan illa wus'aha. Mais la vue le plus sûr, c'est ce qu'a dit Cheikh Al-Albani Rahmo, que même là-bas, on est obligé de prendre la sutra. En revenant du Yémen dans l'avion, j'ai pris ça sur assis en tournant dans la Qibla, en sachant que la direction de la Qibla était indiquée sur un écran. Naam. Quand on sait où est la Qibla et qu'on peut faire la salat en face de la Qibla, on est obligé de la faire en face de la Qibla. Naam. Si la Qibla est à ma gauche et je peux m'asseoir, ma chaise tourne par exemple, j'ai une chaise qui tourne et je peux me tourner vers la gauche, je suis obligé de me tourner vers la gauche. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je commence par la Qibla, je tourne ma tête vers la Qibla, ensuite si je ne peux pas, je vais vers l'autre direction. Mais je commence par la Qibla, bi'idna ta'ala, quand je peux. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. C'est qui, inshallah, le prochain questionneur? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pouvez-vous citer le dalil comme quoi une prière assise vaut la moitié qu'une prière debout? Si je fais une prière obligatoire assise, vaut-elle la obligatoire assise? Vaut-elle la moitié d'une prière debout? Ça y est, le dalil, je l'ai cité, ça fait une demi-heure, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bon, attends, je vais te lire le dalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, quand quelqu'un lui a demandé, c'est Imran ibn Husayn, il lui a dit, c'est quelqu'un qui fait la prière assis. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, man salla qa'iman fa huwa afdal, quiconque fait la salat debout c'est mieux. Wa man salla qa'idan fa lahu nisfu ajr al-qa'im, et qui fait la prière assis, il a la moitié de celui qui l'a fait debout. Et on salla na'iman, et qui fait la prière allongée à la moitié de celui qui est assis. Naam. C'est dans le Bukhari, Abu Daoud et Ahmed. Naam. Et une autre fois il a dit, il est sorti sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens assis en train de faire la prière. Il a dit, inna salat al-qa'id ala nisf min salat al-qa'im. Il a dit, celui qui fait la prière assis, il a la moitié du hajj de celui qui l'a fait debout. Je veux dire, conclusion, pour la salat obligatoire, on n'a pas le choix. Je ne peux pas, dans une salat obligatoire, je dis, je vais choisir. Je vais la faire assis, j'aurai la moitié. Tu ne peux pas. Si tu peux la faire debout, tu es obligé. Car Allah Ta'ala a dit, wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout, humilié. Qumu, qumu, qum, tiens-toi debout. Donc, tout le monde est obligé de faire la prière debout. Mais si tu ne peux pas, tu l'as fait assis. Naam, si tu ne peux pas, tu l'as fait assis. Mais si tu peux, tu es obligé. Quant à la nafila, non. La nafila, si tu veux la faire assis, tu l'as fait assis, tu as la moitié du ajr. La nafila, si tu veux la faire assis, tu peux. Ce n'est pas comme la prière obligatoire. Naam. Mais si je fais une prière obligatoire assis, pour quelle la moitié? Naam, j'ai répondu. Prochaine question, Inch'Allah. Om Zakaria, prépare-toi ou la pose la question. Salam alaikum. J'ai lu qu'au moment du premier takbir, Allah Azza wa Jal se met devant son serviteur. Pouvez-nous expliquer cela, barakallahu fikoum? Vous en avez parlé au cours sur le takbir. Naam, ça va arriver, Inch'Allah, dans le prochain cours. Dès que quelqu'un dit Allahu Akbar, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal met son visage en face de celui qui fait la prière, celui qui fait la prière. Non. C'est pour ça que le prophète a dit, fais la tête à fito. Donc, ne, ne regardez pas comme ça à droite à gauche, ne jetez pas des regards comme ça yani, à droite à gauche, il t'y fait. Non. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, subhanallah al-Azim, son visage est en face de toi, toi tu le vois pas bien sûr, toi tu le vois pas. Alors il faut yani, avoir honte de Allah subhanahu wa ta'ala qui est en face de toi et ne pas le laisser et regarder ailleurs. Non. Ça c'est un hadith sahih qui dit que quand tu dis Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala met son visage en face du visage du serviteur, de son serviteur. C'est dire quoi? C'est dire que la salat yani, Allah Azza wa Jalla vraiment l'aime et qu'elle a vraiment une grande importance. Non. Et que quiconque fait la salat en ressentant des choses pareilles dans son cœur, quand il est dans la salat, il ressent que Allah Azza wa Jalla est en face de lui, il sent cette chose, vraiment il va faire une bonne salat, une vraie salat, une longue salat, une salat pleine de concentration. Et quand il oublie cette chose, il oublie que Allah subhanahu wa ta'ala est en face de lui, il va faire une petite salat, une courte salat, et une salat très vite, naam, sans concentration. Allahu al-musta'an. Comme Zakaria, peut-être ça ne veut pas passer. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pourquoi y a-t-il des prières à voix haute et à voix basse? Non. Pendant des années, je n'ai jamais prié. Comment me répondre? Barakallahu fikoum de vos réponses, que Allah vous récompense et vous consacrez. Amin ya rabbal alamin. Pourquoi y a-t-il des prières à voix haute et à voix basse? Non. D'abord, je voudrais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré pourquoi. Non, il n'a pas montré pourquoi certains sont à voix haute, certains à voix basse. Mais certains ulama ont dit, la prière, quand on est en journée, on la fait à voix basse, parce que déjà on est réveillé, on est en pleine journée, comme le dhuhr par exemple, le asr. Quand il commence à faire nuit, maghrib, isha, subh, on a tendance à dormir. Il fait nuit déjà, donc on l'a fait à haute voix pour yani, ne pas s'endormir, pour rester tout le temps éveillé yani, quand on l'a fait à haute voix. Mais c'est seulement yani, l'avis de certains ulamas. Je dis, il n'y a pas un hadith qui dit comme ça. Autre chose, je voudrais ajouter que dans la nafila, ça c'est dans la prière obligatoire. Maintenant, dans la salat nafila, on est libre de la faire à voix haute ou à voix basse, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Comme Cheikh Ibn Hazm, rahimahullah, il a rapporté l'unanimité des ulama al-ijma' dans son livre Maratib al-ijma'. Hein? Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah l'a acquisé. Il n'a pas dit ce qu'il a dit n'est pas vrai. Car quand il faisait des fautes, il lui corrigeait. Il a dit, ça, yani, c'est vrai que pour les nafilas surérogatoires, si tu fais à haute voix, tu fais à voix basse, tu es libre. Sauf dans l'obligatoire, comme je viens de dire. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas prié des années, comment se repentir? Il se repent en regrettant ce qu'il a fait et en rattrapant, en faisant des prières surérogatoires. Non, rattrape le passé que tu n'as pas fait en faisant des prières surérogatoires. Et plus précisément, en faisant les 12 rak'at des rawatib. Les 12 rak'at des rawatib bi'idhn azza wa jal. Naam. Les rawatib, peut-être tout le monde les connaît. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les rawatib. Tayyib. Bint Hashmi écrit, les rawatib. Donc il y a deux avant Sobh. Je dis bien deux avant Sobh, pour que vous puissiez, Inch'Allah Ta'ala, compter avec moi. Deux avant Sobh. Ensuite, il y a quatre avant Dohr. Ensuite, il y a deux après Dohr. Ensuite, il y a deux après Maghrib. Ensuite, il y a deux après Aïcha. Ça fait 12. Si tu peux, Inch'Allah Ta'ala, yani, faire ces salats tout le temps et ne pas les laisser. Que bien sûr, quand on est en voyage ou là, Inch'Allah Ta'ala, tu auras bi'idna azza wa jal beaucoup de ajr. Faqir, deux avant Sobh, naam, quatre avant Dohr, deux après le Dohr, Allahu Akbar. Maintenant, cela se traduit au moins. Maintenant, ça va donner 16 ou 20 salats. Deux avant, sauf 4 mondes, deux après Maghreb, deux après Isha. Naam. Maalish, Faqir Allah, tu as bien fait. Moi, je croyais que Ben Tashmi n'allait pas écrire. Non, je croyais que Ben Tashmi n'allait pas écrire parce que elle a entendu de, elle a attendu qu'elle écrive tout. Moi, je croyais qu'elle allait écrire quand je parlais. Maalish, Naam. Chauf, ma soeur, donc deux avant Sobh. C'est quoi, regarde ce qu'a écrit Ben Tashmi dans la même phrase. Deux avant Sobh. C'est quoi deux avant Sobh? Deux avant Sobh, c'est Salat al-Fajr. Les deux prières qu'on appelle Fajr. Tu lis dans la, dans la première, Qul ya ayyuha al-kafirun. Et dans la deuxième, tu lis Qul huwa Allahu ahad. Ça, c'est deux avant Sobh. Ensuite, quatre avant Dhuhr. Deux après Dhuhr. Deux après Maghrib. Deux après Isha. Que les gens appellent communément, ils disent Salat Shafa. Shafa après Isha. De toute façon, il n'y a pas Salat Shafa. Il y a deux rak'at qui s'appellent des rawatib. Elles viennent juste après l'Isha, bi'idna azza wa jal. Naam. C'est à qui, Inch'Allah, le prochain tour, bi'idna azza wa jal. Question concernant le cours. Peut-on dire deux fois Allahu Akbar lorsqu'on s'est prosterné et qu'on se relève pour la posture du repos? Ici, raha. Et lorsqu'on se relève pour commencer une nouvelle akar. Franchement, je n'ai pas compris la question. Hein. Comment qu'on peut dire deux fois, je n'ai pas compris. Peut-on dire deux fois Allahu Akbar lorsqu'on est prosterné et qu'on se relève pour la posture du... Comment on dit deux fois? Il n'y a qu'une seule fois Allahu Akbar. Je n'ai pas compris. Je suis prosterné. Naam, je suis prosterné. Qu'est-ce que je dis? Je dis une seule fois Allahu Akbar et je m'assois. Et ensuite, je dis Allahu Akbar et je me prosterne. Je n'ai pas compris que veut dire le frère ou la cerise. Naam, je n'ai pas compris. Ah, là, je crois avoir compris. Naam, je crois avoir compris. La question dit, Allahu Alam, par exemple, je suis prosterné. Je dis Allahu Akbar pour me lever, car je suis dans la deuxième prosternation. Je dis Allahu Akbar pour me lever. Mais avant de se lever, il y a une sunnah. C'est de rester un peu assis, ensuite se lever. Il dit, est-ce qu'on dit deux fois Allahu Akbar? Est-ce qu'on dit la première pour lever de la prosternation et la deuxième pour se lever après s'être assis, jilsat istiraha? Et la réponse, bi'idna azzawajal, on ne dit qu'une seule fois. Naam. Tu ne dis qu'une seule fois. Quand tu te lèves du sujoud, tu dis Allahu Akbar. Khlas. Et tu t'assois un petit peu et tu te lèves sans rien dire. Bi'idnillahi azzawajal. Naam. Inch'Allah ta'ala, c'est à qui le tour? Je voudrais m'excuser pour mon ignorance. Mais je ne comprends pas pourquoi différentes écoles, alors qu'elles suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pas une seule et même école? Barakallahu fik ya shaykh. Je voudrais m'excuser pour mon ignorance. Déjà, le fait de yani, dire je suis ignorant, tout ça, inshallah ta'ala, c'est tawada. Tout ça, c'est tawada. Naam. Ensuite, il dit, pourquoi différentes écoles, alors qu'elles suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pas une seule et même école? Barakallahu fik ya shaykh. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il y a les sahaba et leurs enfants, les tabi'in et ceux qui sont venus après, qui sont allés habiter dans différents endroits du monde. Certains sont allés en Égypte, les autres sont allés en Irak, les autres sont allés en Syrie, les autres. Et chacun dans son pays a propager le ilm qu'il savait. Chacun a propagé le ilm qu'il savait. Et chaque alim dans son pays a voulu montrer aux gens ce qu'il savait lui. C'est pour ça que les gens ont dit, par exemple, ça c'est le ilm de X, donc c'est son école. Et ça c'est le ilm de, par exemple, de Shafi'i qui était en Égypte, son école. Ça c'est le ilm, par exemple, de Abu Hanifa parce qu'il était en Irak. Ça c'est le ilm de l'imam Malik, il était à Medina. On n'est pas obligé de grouper tous les gens pour leur dire vous devez tous suivre l'imam Malik. Chacun, où il était, a répondu son ilm. Ensuite, eux, les grandes écoles, et les grands imams des quatre grandes écoles, rahimahumullah jami'an, quand ils ont propagé, divulgué leur ilm, ce n'est pas dans le sens de faire une école, non. Non, ils s'assiedaient comme ça dans la mosquée, ils faisaient des doros. Les gens après eux, ont fait de leur ilm, yani, une école, etc. Mais eux, ils n'ont pas dit on va faire une école. Ils apprenaient aux gens le din. On leur pose une question, ils te répondent, c'est tout. Et chacun répond d'après le ilm qu'il a. Naam. C'est pourquoi ceux qui font la différence entre les grandes quatre écoles, par exemple ceux qui ont lu ce qu'on appelle Fiqh Muqaran, ils lisent, ça dit Abu Hanifa, ça dit Imam Malik, ça dit Shafi'i, par exemple, ils lisent leur délivre, ils trouvent toujours, par exemple, que l'imam Malik, par exemple, avait beaucoup plus de hadith que l'imam Abu Hanifa. Pourquoi? Quelle est la différence? Et quelle est la cause? L'imam Malik a vécu, est né et est mort, subhanallah, à Médine. Une Médina, c'est quoi? Une Médina, c'est la ville où la révélation descendait. C'est la ville où le prophète islam a habité. Et Abu Hanifa était en Irak, très très loin. Très très loin des hadiths. C'est pour ça que tu trouves dans l'école de Abu Hanifa, tu trouves beaucoup moins de hadiths. Et beaucoup de hadiths qui sont faibles. Vu la distance entre lui et Medina. Et regarde Imam Malik, masha'Allah, Medina. Yani le vrai endroit où il y avait les hadiths. Regardez pourquoi il a écrit le Mawta. Il a écrit un livre seulement sur les hadiths. Mawta, masha'Allah. Naam. Donc ça diffère. Ce qu'il y a dans cette école n'existe pas automatiquement dans l'autre. Il se peut que dans l'autre, il y ait des choses qui vont à l'encontre de l'autre école. Celui-là, il a un hadith, celui-là, il l'a pas. Celui-là, il a entendu quelque chose, l'autre, il l'a pas entendu. Et comme ça. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais la question est un peu difficile à cerner, car c'est une question vraiment vaste. Naam. Safiya, ça peut aller. J'attends la question de Safiya. Ça y est, peut-être qu'elle passe pas. Lala Naïma, t'as fait d'aller? Assalamu alaikum, alaikum salam. J'allaite ma fille de 2 mois et des fois elle réclame en pleurant à l'heure de la salat. Puis-je prier après l'avoir allaité, sachant que je prie avant l'arrivée de la prochaine salat, ou dois-je prier et la laisser pleurer pour l'allaiter? Puis-je donner les intérêts des pauvres? Le premier takbir doit-on le faire à voix haute? Ça y est, 3 questions, masha'Allah. En ce qui concerne la fille, naam. J'avais dit qu'aujourd'hui seulement, on permettait yani, à ceux qui avaient levé les mains de poser leurs questions. Ça, c'est pour ça qu'ils profitent, ils posent n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi qui n'est pas dans le sujet, je veux dire. J'allaite ma fille pendant deux mois, masha'Allah alayha, et des fois elle réclame en pleurant à l'heure de la salat. Naam. Maintenant, si l'heure de la salat, il te reste beaucoup de temps. Par exemple, je donne un exemple. La deuxième salat qui va venir, c'est dans une heure et demie. Ça ne fait rien. Je donne d'abord au bébé, ensuite je vais faire la prière. Naam. Mais si, khlas, il ne va rester qu'un quart d'heure, là, la salat va sortir. Je ne peux plus. Je dois commencer par la salat. Naam. C'est pour ça que, il faut toujours faire des calculs. Il faut toujours faire des calculs. Je dis que, peut-être qu'elle va me demander de laisser, donc je lui donne maintenant pour qu'elle me laisse après. Naam. Je dois faire des calculs pour que je fasse la salat, car elle est plus importante que allaiter mon bébé. Naam. Donc, si l'heure de la salat est encore loin, il te reste une heure et demie, ça, allez, tu lui donnes le lait, ensuite tu vas faire la salade. Mais si, khlas, le soleil va se coucher ou là c'est trop tard, tu commences par la salade. Naam. La tul, ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Ô vous les croyants, il ne faut pas que vos biens ou là, vos enfants yani, vous oubliez dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Puis-je prier? Naam. Puis-je donner les intérêts à des pauvres? Naam. On donne les intérêts à des pauvres. On donne les intérêts à des pauvres et on fait vite bi'idn azzawajal pour sortir nos intérêts de la banque. Car si on meurt avec des intérêts dans la banque, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère de nous. Car on aura fait un grand péché. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un seul dinar, un seul dirham, des intérêts, c'est comme quelqu'un qui a fait 36 fois la zina. Non. Imaginez la zina, c'est grave ou là, c'est pas grave, quelqu'un qui fait la zina. C'est très grave. S'il est marié, on doit le lapider jusqu'à ce qu'il meure. Imaginez un dirham, un seul dirham ou le dinar d'intérêt, c'est comme si tu as fait 36 dinars, un destin dinar. Qu'en est-il pour celui qui a des milliers d'euros dans les intérêts? Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit que l'usure, les intérêts allés, c'était yani, plusieurs portes. Il y a plusieurs rameaux. Il a dit le moins grave, il a dit, c'est comme celui qui fait la zina avec sa mère dans la rue. Allahu Akbar. Faire la zina, premièrement, et deuxièmement, avec sa mère, ce n'est pas avec une femme n'importe qui, avec sa mère, et dans la rue, tout le monde me voit, dans la rue, les gens s'arrêtent et me voient. Regardez X, en train de faire la zina avec sa mère. Tout ça, pour celui qui laisse l'argent, ou on donne les intérêts, et c'est lui qui a voulu les poser là-bas, sans bien sûr qu'on les forcer, etc. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse son repentir sur nous parce que c'est vraiment difficile. Naam. Donc tu peux donner l'argent, inshallah, aux pauvres sans leur dire que ce sont l'argent des intérêts. Ensuite, c'est écrit. Et j'ai pas terminé. Je suis en train de chercher des questions. La dernière question. Le takbir, doit-on le faire à voix haute? On est obligé. Le takbir, on se fait seulement entendre. Naam. On dit comme ça, Allahu Akbar. Tu te fais seulement entendre, toi, Barakallahu fik. Je demande à Al-Faqir et Allah, et Ta'am Allah et les autres qui sont dans la salle de ne pas écrire, Barakallahu fik. Je vous dis pourquoi. Quand vous écrivez, vous me descendez la page, ça veut dire je ne peux pas lire les questions. Naam. Quand vous écrivez, les questions montent en haut. Maintenant, moi je monte en haut et vous me faites descendre. C'est comme un ascenseur. Moi je monte et vous me descendez. Je monte et vous me descendez. Jazakallahu khair, jazakumullahu khair. Laissez-moi monter, barakallahu fikum. Ne me faites pas descendre, jazakumullahu khair. Attendez que je monte. Ça y est. Je monte. Voilà les questions en face de moi. Je disais. Naam, le takbir, on peut le faire en nous-mêmes. Mais pas en nous-mêmes. Pas à l'intérieur de la bouche ou là à l'intérieur de notre âme. Là on le dit, on dit Allahu Akbar comme ça, on sait entendre à soi-même, mais c'est pas la peine que ça soit vraiment fort. Non. Ensuite c'est quoi? Je travaille dans le prix. Travaille dans le prix apporté depuis 2 ans. On nous impose un uniforme qui est fourni par la société qui n'est pas très conforme, si je puis dire. Quant à l'enchevêtre des vêtements, que dois-je faire concernant cela? Les prières qui sont faites après le travail, comment peuvent-elles être interprétées à votre avis? Quand même, le voile ne serait plus conforme si je le portais. Je vais faire un âme. Quand quelqu'un. C'est quoi la cause de tout ça? La cause de tout ça, c'est ce qu'on appelle le pays de Kofr. Non, c'est le pays de mécréance où on est. Si on était dans un pays musulman, on n'aurait pas ce problème. Alhamdulillah, on n'aurait pas ce problème bi'idna azzawajal. Donc c'est pour ça que il faut que on fasse vite la hijra pour aller dans un pays où on ne m'oblige pas à m'habiller comme il veut eux et on ne m'interdit pas de faire la prière. Masha'Allah. Quand tu es, par exemple, en Algérie, tu es dans une société, tu es dans un ministère, tu es n'importe où, conseiller de la prière, tout le monde s'arrête, ceux qui font la prière, ils vont dans un endroit et la font, Masha'Allah, en groupe. Homme et femme. Et la femme, si elle ne veut pas la faire en groupe, elle la fait seule dans son bureau, Zarbia, et elle fait la prière, Masha'Allah. Regardez la différence entre quand on est dans un pays musulman et dans un pays de kofre. Et si quelqu'un veut dire Yani Allah Ghalib Kada, Allah Ta'ala te dira, comme il a dit dans le Coran, il a dit, ma terre n'était-elle pas yani, assez vaste pour que vous sortiez de ce pays, yani, ma terre n'était pas grande. Non. Donc c'est pour ça que quand elle me dit yani, je suis obligé de m'habiller ainsi. Moi, comment veux-tu que je te réponde, ma soeur? Comment veux-tu que je te réponde? Non, si on t'impose un uniforme, qu'est-ce que je peux dire, Ibn Azzawajal? Non. C'est difficile, Ibn Azzawajal. Sauf si quoi? Sauf si, yani, on peut mettre quelque chose sur cet uniforme. On peut mettre quelque chose sur cet uniforme. Mais je suis sûr qu'on ne peut pas. On doit laisser l'uniforme comme ça, visible, Ibn Azzawajal. Pour Salafia, j'ai pas encore la réponse. Naam, j'ai pas encore la réponse. Inch'Allah, je la lui donnerai très bientôt. Je la lui donnerai, bi'idna ta'ala. Malheureusement, non. Naam. Malheureusement, non. Taqullah mastata'tum. On essaie de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. On essaie de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Naam. Pour la prière, il faut essayer de la faire, yani, au maximum en son heure. Naam. Il faut essayer de la faire. Oh mon, c'est difficile de laisser la prière à cause de quoi? À cause du travail. Naam. Si quelqu'un sait que il ne peut pas faire la prière dans le travail et il sait que il peut vivre sans ce travail, je lui donne conseil de ne pas travailler. Si je suis dans un travail où on me dit tu fais pas la prière, là tu fais pas, et que je peux vivre sans travail, ça veut dire par exemple j'ai de l'argent de côté, ou là je suis une femme, j'ai mon mari qui travaille. Je dois m'arrêter à cause de ce que il y a chez Allah Azza wa Jal. À cause de ça, la salat, qui est le grand pilier de l'islam, je m'arrête du travail à cause de ma salat. Allah Ta'ala va m'ouvrir des portes, yani comme il n'en a pas ouvert à d'autres. À cause de quoi? Que j'ai eu peur à cause de lui, et à cause que, pour que ma salat, yani, ne parte pas de Allah Azza wa Jal. Naam. Maintenant, je ne sais pas si j'ai la roule, si je suis connecté ou si je ne suis pas connecté. Je ne vois pas. Est-ce que je suis connecté, Baraklou, je ne vois pas la connexion ici. Naam. Il reste beaucoup de choses à dire. Il est déjà ici 1h du matin. Inch'Allah Ta'ala, le vendredi, parce que le prochain cours, c'est le samedi, Aqida. Naam. Le prochain cours de Aqida, c'est samedi. Vendredi, Inch'Allah Ta'ala, on fera des questions-réponses seulement à main levée. On fera des questions-réponses seulement comme ça, à main levée, vers 10h30 ici, au Koweït. Ça veut dire vers 20h30 chez vous. Bi'idnillah Azza wa Jal, Inch'Allah, jusqu'à vendredi, bi'idnillah, Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.